Au programme pour ce grand forum en ce 17 juin, le sujet à la une des Émirats Arabes Unis ont dénoncé vendredi une dangereuse escalade après les attaques jeudi contre deux pétroliers en mer d'Oman. Faut-il craindre un nouvel embrasement dans le Golfe? On en parle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000 avec Gamal Abina, Dieudonné Excellent et Razik Metish. Près d'une centaine d'organisations de la société civile algérienne ont appelé samedi à une transition de 6 mois à 1 an maximum, pilotée par une ou des personnalités consensuelles pour organiser l'élection d'un successeur au président Bouteflika. Est-ce la meilleure sortie de crise? C'est la question que l'on se posera tout à l'heure, bien sûr. Sans oublier le traditionnel zapping et les infos zappées, voilà, qui nous conduira tranquillement jusqu'à 18h. C'est parti pour ce premier grand forum de la semaine sur France Maghreb 2.
Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2.
Merci d'être avec nous, le grand forum, merci d'être avec nous en début de semaine. C'est lundi aujourd'hui, on y va tranquillos avec le retour du soleil. Eh oui, c'est la semaine de l'été, messieurs dames. C'est le 21 juin, c'est vendredi. Allez, pour commencer la semaine, ah, que mieux que de grands monsieur balèzes, qui ne font que de la radio d'ailleurs, pour l'heure, parce que bon, ils ont des corps qui sont trop difficilement filmables, hein, sinon après on risque d'avoir un attroupement de filles dans les parages. Gamal Abina, bonjour.
Bonjour.
Bon, Gamal, on le voit un peu à la télé aussi. Hein.
Si seulement c'était vrai.
Ouais, d'accord. C'est ça, ouais. Non, mais il paraît que voilà, tu te défends bien, quoi.
Ouais, je me débrouille,
ça. Voilà, c'est ça. Bon, Gamal Abina, président fondateur du MDC, Mouvement des droits civiques.
Absolument.
Bon, et monsieur Dieudonné Excellent aussi, comment ça va, Dieudonné?
Ça va, merci beaucoup Christophe pour cette invitation. Ça va. Alors quand tu as parlé tout à l'heure, tu dis que j'ai vite rentré mon ventre parce que bon,
ouais.
Je pense que
ouais. Il y aura pas beaucoup de... C'est quoi, c'est la quarantaine, c'est ça?
Ouais, c'est là.
C'est ça,
c'est...
Ouais.
Je ouais. Sais pas si c'est une crise, mais bon, c'est... ça se voit un peu quand même. Hein,
bon, donc, notre Dieudonné, il est candidat aux élections municipales à Villetaneuse.
En effet.
En charge également du collectif Villetaneuse.
Autrement.
Autrement. Voilà, Villetaneuse autrement, comme le grand forum, l'info autrement. Comme quoi, tout cela, finalement, c'est une histoire de belle histoire de rencontre. Mmh. Allez, jusque 18h, messieurs, pour entamer ce sujet quelque peu compliqué, mais en même temps assez facile. C'est un problème lié à l'actualité internationale que je propose d'évoquer pour démarrer cette émission. Et cette semaine, avec les Émirats Arabes Unis qui ont dénoncé vendredi une dangereuse escalade après les attaques jeudi contre deux pétroliers en mer d'Hormuz. Faut-il craindre un nouvel embrasement dans le Golfe? C'est la question clairement que je vous pose aujourd'hui. On voit qu'en ce moment ça se fricote entre les Iraniens et les États-Unis. C'est plutôt les États-Unis d'ailleurs qui cherchent un peu, beaucoup. Est-ce qu'il faut vraiment craindre un affrontement dans les quelques mois, peut-être semaines à venir? C'est la question qu'on se pose et vous êtes 66% à le craindre, cet affrontement. Sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter. Sur Twitter, le grand forum FM2. Monsieur Gamal Abina, je sais que tu es un spécialiste un peu en la matière. Est-ce qu'il faut craindre là cet affrontement qu'on est en train de nous vendre?
Alors oui, il faut craindre le comportement des Émirats et surtout de l'Arabie, puisque c'est eux qui posent problème.
Ouais.
En substance, en vérité, Trump, depuis le départ, depuis qu'il est arrivé, tout le monde le prend pour un va-t-en-guerre. C'est surtout une grande gueule qui provoque des débats violents dans le but de faire avancer sa politique au Moyen-Orient et,
ouais.
et de faire en sorte de forcer un peu leur rapport à la paix. Donc on connaît son discours incendiaire, il est très provocateur, mais jusqu'à présent, même avec la Corée du Nord, on a bien vu qu'il n'a pas été dans une démarche d'affrontement direct, alors qu'il en a fait beaucoup. En revanche, concernant l'Arabie et les Émirats, évidemment, particulièrement l'ingratitude des Émirats, je rappelle tout de même que la fortune des Émirats s'est bâtie sur le commerce avec l'Iran, puisque c'est eux qui réexportaient vers l'Iran, l'Iran étant sous embargo pendant 30 ans, des produits manufacturés. Donc l'Arabie aujourd'hui tourne sa veste une fois de plus et les Émirats Arabes Unis et elle pousse l'Arabie.
Ouais, l'Arabie aussi, ouais, c'est des alliés de toute façon.
Oui, mais les Émirats, l'Arabie n'a jamais réexporté. Je parlais des Émirats Arabes Unis,
ouais.
Ils étaient réexportateurs, c'est comme ça qu'ils ont fait leur fortune, puisqu'ils n'ont pratiquement plus de pétrole. Aujourd'hui, ils sont à 10% de production de richesse du pétrole. Donc ils utilisent effectivement ce levier parce qu'ils ont aussi un contentieux long avec l'Iran sur l'histoire de trois îles qu'ils réclament depuis longtemps, qu'ils disputent à l'Iran. Et puis l'Arabie, évidemment, parce que l'Arabie veut le leadership du monde arabo-musulman, sachant la détestation qu'il provoque pour les populations musulmanes dans le monde, ils essaient de se montrer comme une sorte de fer de lance et ils vont très loin dans leur démarche.
Et cet affrontement dont tu fais allusion, cher Gamal, ami auditrice auditeur, aussi se joue au Yémen.
Oui, c'est pas bah, oui, bah, absolument. Malheureusement, c'est le théâtre d'opération premier, puisque il y a les minorités houthis qui est en affrontement direct avec l'Arabie. Rappelons tout de même que c'est l'Arabie qui a attaqué les houthis. Je dis bien l'Arabie parce que je n'accepte pas la terminologie Arabie Saoudite. Je considère que l'Arabie est colonisée par la famille saoudienne et que l'Arabie a toujours existé avant Saoud. Donc ça existe depuis 70 ans maintenant, 80 ans, mais il faut rappeler que ce pays s'appelle l'Arabie, que les Arabes d'Arabie s'appellent les Arabes et pas les Saoudiens. Ça, je tiens à le préciser parce que je peux pas reconnaître un pays qui est une fabrication coloniale anglaise et qui aujourd'hui, avec le pacte Quincy des Américains, devient une tutelle américaine. Donc le problème aujourd'hui, c'est pas l'Arabie, c'est vraiment les États-Unis et le bras armé que représente l'Arabie pour les États-Unis.
Dionor, on s'exporte un peu de ville tanneuse là pour le coup. Est-ce qu'il faut craindre justement un affrontement entre, c'est vrai, les Américains qui provoquent, hein, les Iraniens depuis un petit moment. Gamal a tendance à nuancer un petit peu le va-t-en-guerre de Donald Trump. Quand même, rappelons quand même que les États-Unis, depuis la création, depuis son histoire, finalement, c'est un État qui s'est toujours bâti sur un affrontement avec un autre pays. En fait, c'est surtout la guerre qui a fait les États-Unis. En fait.
Oui, et puis de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que la zone dont il s'agit, c'est une zone pétrolière ou c'est une zone de première transit d'hydrocarburants. Donc, on est sur des intérêts économiques importante pour les États-Unis d'Amérique et pour le reste du monde. Moi, je nuancerais plus mon propos sur le fait que les Américains seraient plus des provocateurs. Il faut pas rappeler ce qui s'est passé en Irak aussi. On nous a fait croire que, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Les États-Unis d'Amérique veulent nous faire entendre et croire que ce seraient les Iraniens qui seraient responsables des attaques de ces pétroliers. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve.
Ils ont démenti.
Là-dessus.
Ils ont totalement démenti.
Voilà, ils ont démenti et eux, ils persistent à dire ce qui n'a pas été prouvé. Donc, ils vont nous sortir une fois de plus des preuves bidons. Parce que pour l'instant, s'il n'y a pas de preuves réelles, c'est des preuves, bon, des vidéos qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. On ne sait pas comment. Le mec, il a dû faire ça dans sa salle de bain, je sais pas. Mais bon, aujourd'hui, on sait qu'au-delà de la provocation, les Américains ont pris un positionnement en tout cas géopolitique, d'unilatéralisme, c'est-à-dire qu'ils sont les maîtres du monde, ils décident de ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, quand ils le veulent. Ouais. Quand leurs intérêts sont menacés, ben, ils savent justement faire valoir ces intérêts. Et il y a un contexte particulier, c'est les relations de l'Iran et des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, un embargo qui est pétrolier, qui existe depuis un certain nombre d'années, qui appauvrit justement ce pays. On peut voir les taux de chômage, c'est quand même de 27% chez les jeunes. Et justement, finir mon propos, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de cette démarche de soi-disant de provoquer, il y a cette escalade qu'on peut craindre de conflit, dans l'idée aussi d'en finir avec l'Iran, ce qui a toujours été le rêve des Américains. Et Donald Trump, qui va bientôt arriver pas loin des prochaines élections, pour se faire ne pas réélire.
Pour un deuxième mandat.
Pour se faire ne pas réélire, on le souhaite tous, je pense que il veut montrer qu'il est le maître du monde et il veut partir dans cette démarche.
Dionor, c'est un président, Donald Trump, qui effectivement est sulfureux, etc. mais qui quand même a redressé économiquement les États-Unis.
Largement.
Oui, mais on peut pas lui enlever.
Oui, mais alors quand on parle de redressement économique, c'est à quel coût ? Est-ce que les gens ont de meilleures conditions de travail ? Non. Est-ce que ce pays accueille plus les personnes qui sont en situation de difficulté ? On regarde le régime de protection sociale aux États-Unis. C'est pas l'Eldorado, c'est pas l'Oasis.
Obama, ça a été une belle farce. Après, maintenant, Dionor, Obama, ça a été une belle farce. Pardon, hein.
C'est
clair. Pardon, c'était juste le symbole, mais le reste.
On peut pas dire que c'est juste un symbole. Après, on peut dire aussi que Donald Trump, c'est un symbole. Non, il est certes qu'on regarde les chiffres du chômage, de l'emploi, c'est mieux. Mais est-ce que les conditions de vie des personnes sont meilleures ? Moi, je vis pas là-bas, je me suis pas plus renseigné. Mais aujourd'hui, je pense que Donald Trump n'est pas un bon président pour les États-Unis d'Amérique. Je n'aurais pas voté pour lui, personnellement.
Gamal, pourquoi Donald Trump est un bon président pour les États-Unis ?
Non, c'est pas un bon président.
Non, mais vas-y, dis-le, assume-le.
J'assume tout jusqu'au bout. J'ai dit dès le début, avant même les élections, quand il était élu, j'ai dit ça sur Al Jazeera en direct, il sera élu. Ça sert à rien de faire croire qu'il sera pas élu. Son programme est efficace. C'est un gagneur. C'est un type qui a gagné
c'est un homme d'affaires.
Mais au-delà de l'homme d'affaires, c'est un homme. C'est une sorte de. On l'a comparé à Hitler. Moi, je suis pas d'accord. Faut le comparer à. Économiquement, on peut le comparer à quelqu'un d'intéressant. C'est à Mussolini. Ouais. Il a promis des choses qu'il a tenues. Alors, tu dis à l'instant que les États-Unis, le système social n'est pas bon. Il n'a jamais été bon. Je veux dire, même à l'époque du New Deal, c'était catastrophique. C'est un pays qui se fiche complètement des pauvres.
Après, gamin, est-ce que le fait de tenir des promesses, de faire des promesses qu'on a tenues, est-ce que ça fait de
quelqu'un bon posant? Non, je dis pas que c'est bien. Je dis que l'Américain moyen, il voit un homme qui protège l'emploi. Je dis que l'Américain moyen, il se fiche complètement de savoir. Trump, il a dit, je suis un isolationniste. Il est contre l'intervention américaine extérieure parce qu'il lui rapporte moins d'argent. Il sait très bien que maintenant les guerres leur coûtent. C'est fini les 250 ans de guerre américaine. Ça leur a coûté plus que ça leur a rapporté. Et le seul qui soit vraiment à fond, en rentrant un peu dans la technique américaine, qui soit à fond dans le va-t'en guerre américain, c'est John Bolton. C'est lui qui veut la guerre. C'est lui qui pousse un petit peu. C'est même pas le neveu de Trump qui est un guignol, c'est vraiment John Bolton.
Ouais.
Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une analyse. Tous les grands analystes sérieux savent très bien que l'Iran est une terre imprenable. Le nord montagneux, le sud marécageux, la mer, bref, on ne peut rien y faire. Deuxième aspect par rapport à ces questions-là, effectivement, Trump est un provocateur. Mais pour l'instant, ça fait bientôt 3 ans qu'il est au pouvoir, il n'a attaqué personne. Il faut quand même rappeler des faits, il n'a attaqué personne. Si c'était Clinton qui avait pris le pouvoir, elle faisait la guerre à l'Iran immédiatement.
Ah oui, carrément.
Alors, il n'a attaqué personne, mais il crée des conditions de tension.
Des tensions.
On
l'a
vu en Moyen-Orient, quand il va décider que l'ambassade.
C'est des tensions de négociation. Il fait des coups de pression.
Mais au-delà de la négociation, ça crée des guerres, ça crée.
Non, c'est pas guerre, c'est pas
que ça crée des situations de conflit.
Bah, la preuve, il vient de quitter la Syrie en retirant ses soldats. Les Français étaient en panique d'ailleurs. En réalité, Trump est un type qui ne veut pas que les États-Unis soient à l'extérieur, ça coûte trop cher. C'est un pur homme d'affaires. C'est un type qui dit qu'est-ce que ça me rapporte de taper? Ça me rapporte rien, je reviens. Et aujourd'hui, ce qui se passe, tu disais à l'instant, personne n'aime Trump. Ici. Mais aux États-Unis, tout le monde aime Trump. C'est impressionnant la popularité qu'il a.
En tout cas, on ne peut pas dire personne ici, ni là-bas, tout le monde. Aujourd'hui,
je parle de majorité.
Après, c'est le mode de scrutin. On sait que on compte en nombre de voix, il n'a pas gagné cette élection.
Dans toutes les élections,
ils ont un mode de scrutin.
Non, c'est faux, c'est un mensonge.
Qui favorise les grands États.
Non, c'est faux. Dans toutes les élections au monde, les hommes qui gagnent avec une minorité infime. En France, c'est 20%. Il faut être très clair, il faut arrêter de raconter l'histoire. Trump, il a gagné à la loyale. On a tous rêvé parce que. Enfin, moi, j'ai pas rêvé parce que je peux.
Pas forcément le cas de George Bush, par exemple.
Non, Bush a triché.
Ouais.
Bush a eu besoin de tricher. Ouais. C'était le même mode de scrutin. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire le mode de scrutin.
Ce que je dis, que le mode de scrutin lui a été favorable.
Bah, comme tout le monde.
Non, parce que tout à l'heure, tu disais que tout le monde aux États-Unis aime Trump. C'est faux, parce qu'il y a quand même plusieurs millions de personnes qui n'ont pas voté pour lui.
Il faut regarder les sondages.
Oui.
Après, les sondages, ils sont incroyables.
Est-ce que tout le monde aime Macron en France?
Tout le monde ne peut pas dire. On peut pas dire que tout le monde aime Trump.
Non, c'est la majorité. J'ai pas tout le monde. Personne ne fait l'unanimité. Il s'appelle pas Hitler. Mais le fait est que Trump aujourd'hui est un homme populaire aux États-Unis parce que c'est un beauf, et que c'est un pays, je vais être très clair, c'est un pays de beauf. Ensuite, tu disais à l'instant par rapport à l'Iran, pour faire très clair, Trump se désengage littéralement du Moyen-Orient. Il a dit je vends 400 milliards d'armes à l'Arabie, il se démerde. Il commence à discuter avec Israël pour dire n'attaquez pas, protégez-vous. C'est ça la politique de Trump. C'est un isolationniste pur et dur. Revient à l'Amérique des années 20-30, qui était contre l'intervention à l'étranger. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en plus, il a quand même des militaires, des hommes très formés, qui disent si on attaque l'Iran, c'est la catastrophe. C'est le détroit d'Ormuz qui est là. L'Iran est en mesure, non seulement c'est un pays industrialisé, mais en mesure de faire couler des navires sur le détroit pour bloquer tout le flux pétrolier qui représente à peu près 20-30% du flux mondial. Il peut faire sauter les centrales. Je rappelle quand même que le pétrole saoudien se trouve du côté de l'Est, donc à proximité des missiles Shahab 1, 2 et 3 des Iraniens. Donc ils peuvent parfaitement détruire et ils peuvent même attaquer Israël, ils l'ont dit, hein. Ils vont frapper immédiatement Dimona, la centrale nucléaire israélienne. Oh. Donc les cartes sont claires, le rapport de force entre Trump et l'Iran est un rapport de défiance, mais en aucun cas il ira à la guerre lui. Hein.
Non, voilà. c'est intéressant, Dionor, auditrice, auditeur, c'est que Trump a cette facilité ou faculté, on va dire, de créer une guerre, mais pas par lui. C'est-à-dire que lui, il veut faire le sale boulot. Il aimerait bien d'ailleurs que ce soit Israël ou l'Arabie qui le fasse à sa place.
Bah, c'est une façon de mettre, comme tu disais tout à l'heure, le poudre sur le feu. Il déstabilise toute une région, en sachant que il contribue à cela. Et c'est en ça que je dis que pour moi, Trump, en tout cas pour sa politique internationale et sa façon de gérer ses rapports avec que ça soit ses alliés, c'est pas un très bon rapport dans la mesure où ça crée des situations de conflit. Bien sûr, l'American First, c'est on s'occupe pas de ce qui se passe à l'extérieur, on gère ce qui se passe chez nous, mais on met le désordre à l'extérieur et on.
Mais j'ai envie de dire qu'il met moins
fort.
On parlait tout à l'heure d'Obama.
Sauf que moi, personnellement, aujourd'hui, si Donald Trump est aussi populaire aux États-Unis, c'est parce que c'est la même situation qu'en France. Il y a un réel problème de leadership. D'autres forces politiques.
Le
bipartisme des États-Unis handicape justement cette nation à avoir soit un républicain ou soit un démocrate. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas de démocrate assez fort qui sera en capacité peut-être de gagner cette élection, bah, Trump, il reste fort par défaut.
Non, c'est pas, je suis pas d'accord avec ça. Obama a obtenu un prix. Non, il y a une réalité. Obama était en échec total. Faut jamais l'oublier. À part Healthcare qu'il a réussi. Bon, maintenant, ils ont remis ça en question. La réalité d'Obama, c'est que d'abord, il est parti en guerre. C'est un des présidents qui a tué le plus de personnes à l'étranger.
Ça, il faut le rappeler. Hein. C'est
il a quand même détruit la Libye, la Syrie, l'Irak, ça va, l'Afghanistan.
C'est
Obama.
Il était sévère.
Hein. Les drones assassins,
les drones.
Il bombarde au Pakistan. Trump, il a levé le pied là-dessus. J'aime pas Trump, faut être très clair. J'aime pas les beaufs, j'aime pas ce crétin, mais il n'en demeure pas moins. Je suis désolé pour le qualificatif. Je pense qu'il m'entendra pas. Il n'en demeure pas moins que le personnage a dit qu'il n'irait pas en guerre. Et je suis désolé, depuis 3 ans, il va pas en guerre. Ouais. Alors certes, il fait de la guerre froide, là, je suis d'accord avec toi. Il joue à la guerre par alliés interposés. Il prend ce risque. Mais il sait que ce risque est limité. Et je prends un exemple très, très symptomatique. Quand Israël est parti tout seul comme un grand en 2014 pour faire la guerre à Gaza, ou même en 2006 au Liban, les Américains étaient opposés à ces guerres-là parce qu'ils savaient très bien qu'Israël n'avait aucune chance de victoire. Parce qu'Israël n'est rien s'il n'y a pas les États-Unis, la France et l'Angleterre derrière. Ils y sont allés, ils ont pris une raclée. Pourquoi ? Parce que les Américains leur ont dit attention, le marqueur, il est celui-ci. En face, ils commencent à s'armer, ils commencent à s'industrialiser. L'Iran est un pays industriel. Si un jour ils vous attaquent, vous allez payer très cher. Ce ne sera pas la guerre de 73 où ils ont perdu 2500 hommes. Ce sera une guerre qui leur coûtera des centaines de milliers d'hommes. Donc, enfin, des milliers d'hommes, peut-être pas des centaines, parce qu'ils n'ont pas une centaine de milliers d'hommes, mais bon. Il est certain qu'aujourd'hui, Trump, il joue une carte. C'est un incendiaire, en même temps, c'est un stratège. Alors, on le prend pour un imbécile, mais cette politique incendiaire qu'il mène avec le Moyen-Orient, il la mène avec la Chine, avec sa guerre commerciale, il la mène avec l'Europe. Ah, vous voulez pas vous occuper de l'OTAN, bah, je me débarrasse de vous. Il la mène avec la France, quand il leur parle de travers, c'est quand même impressionnant la façon dont il parle à Merkel. Il est détesté par le monde entier, sauf. Bien évidemment, par l'Amérique, parce que les résultats sont là. Le chômage aujourd'hui est à son taux de 69, des 30 glorieuses. C'est ça la réalité de Trump.
Après, si on analyse les situations économiques des États-Unis pour se positionner sur ce qu'ils sont en train de faire quand même dans le Golfe, je pense pas que ça soit la bonne démarche. Pourquoi ? Parce que là, il s'agit de prendre en considération une région qui est sous tension. Et là, on a parlé de certains États, mais qu'on voit la position de Trump par rapport à la Palestine, il n'a pas du tout aidé à favoriser la paix justement dans cette région. On a vu qu'il y a un positionnement de soutien, mais sans faille, à Israël, qui continue à bombarder, à récupérer des territoires.
Soutien sans faille, je le mesurerai encore.
Aujourd'hui, on a vu que cette position n'a pas forcément avantagé le paix dans cette région. Donald Trump,
je mesure
il a un positionnement idéologique aussi.
Ouais.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire que ce type, il n'a pas un positionnement, des fois, je peux dire même raciste, xénophobe, où il estime que certaines communautés ou certaines religions ou certaines personnes ne seraient pas à la hauteur, peut-être pas que des États-Unis, mais il y a une hiérarchie en tout cas des nations, des peuples dans le reste du monde. À un moment donné, qu'il ait une bonne politique économique aux États-Unis, c'est bien, mais là on parle d'un sujet qui est quand même géopolitique
et
d'ordre international, et on peut pas justifier ce positionnement par rapport
Je ne justifie pas, je ne rends pas hommage, j'explique.
Sa réussite économique.
Non, du tout.
Si tant est qu'il y a une réussite économique, il faut voir aussi les conditions dans lesquelles.
Les conditions sont toujours les mêmes. Il y a toujours eu 30 millions de pauvres, c'est pas le problème. La réussite économique.
C'est un problème, quoi.
Non, mais c'est pas le problème pour un capitaliste, je parle. On s'entend bien. Pour moi, c'est un problème, évidemment. Mais pour un capitaliste, ça ne lui pose aucun problème. Ça fait partie d'une sorte de variable d'ajustement. C'est-à-dire que le pauvre est nécessaire pour pouvoir assurer la richesse d'un pays. Maintenant, concernant Trump, évidemment qu'il a une réussite économique indiscutable. Tout le monde est énervé parce qu'ils ne peuvent pas le critiquer là-dessus. D'ailleurs, c'est les économistes qui en ont parlé dès qu'il est arrivé. Ils ont dit son programme tient la route. C'est ça que les gens ne veulent pas entendre. Et ça lui garantit une réélection. Il est certain d'être élu, mais tranquillement à la prochaine mandature. Ensuite, c'est pas parce que les autres ont été par défaut, c'est parce qu'ils ont été mauvais. Je veux dire, quand on a une Clinton va en guerre, qui passe son temps à vomir toute sa haine sur tout le monde et qui est vraiment méprisante, et ça s'est vu qu'elle était méprisante, et qui n'a pas le quart du quart de l'aura d'un Obama, il ne pouvait pas gagner. Elle était mauvaise depuis le début, et en plus, elle préparait vraiment un avenir qui était chaotique. Et puis, pour finir, par rapport à la question de Trump, j'ai envie de dire un truc simple. Moi, Trump, je vois une sorte de New Deal américain qui a parfaitement compris que le New Deal n'a marché qu'une fois que les États-Unis s'isolaient et laissaient le reste du monde en guerre pour pouvoir vendre leurs armes. C'est ce qu'il fait.
Bon, en tout cas,
finalement, le sujet finalement, c'est devenu Donald Trump plus que.
Oui, Dionor, est-ce qu'il faut craindre cet affrontement dans le Golfe ?
Alors, oui, peut-être pas avec les Américains en front, comme on vient de bien le comprendre, mais il faut craindre, cette escalade.
Qui pourrait faire le sale boulot ?
Qui pourrait provoquer plutôt.
Voilà. Bah provoquer, non, ça on sait qui va provoquer. Mais qui pourrait faire le sale boulot à la place de celui qui aimerait.
Bah le problème c'est que l'Arabie n'a pas les moyens. Alors faut savoir qu'est-ce que c'est comme État l'Arabie Saoudite. Hein. Saoudite pour le coup c'est les Saouds. C'est un État qui a été incapable de former un universitaire de haut niveau, incapable de former des pilotes de chasse. Aujourd'hui leurs pilotes de chasse sont essentiellement au départ au Maroc, maintenant c'est fini, ils sont partis, mais surtout ce sont des Pakistanais, des gens qu'on paye des mercenaires, littéralement. Donc ces mercenaires, ils iront facilement bombarder des Yéménites parce qu'il n'y a pas d'avion en face, pas de DCA, il n'y a aucun moyen d'être abattu. Par contre, si l'Iran entre dans la danse, c'est autre chose. Là, ils sont assurés d'être abattus. Donc l'Arabie aura du mal à recruter des mercenaires pour faire une sale guerre qu'elle ne peut pas tenir. Et ensuite, surtout parce que l'Arabie a quand même à peu près, je crois, 30% de chiites sur son territoire, qu'elle a écrasé les chiites de Bahreïn, il ne faut pas l'oublier, c'est la première intervention, c'est quand même Bahreïn, où ils ont massacré les chiites de cet émirat, qu'elle attaque les chiites ou les néo-chiites du Yémen. Et la vraie raison qui se pose, en réalité, c'est pas tellement le rapport Iran-Arabie existe, mais il y a un autre rapport qui est beaucoup plus ancien, que les gens ne connaissent pas, c'est que le Yémen a toujours été une pomme de discorde entre l'Arabie, qui est une monarchie dictatoriale, et le Yémen qui a tout de suite été une république panarabiste, proche de Nasser à l'époque. Ça a toujours été la faiblesse de la péninsule arabique, c'est ce sud extrême qui a été divisé pendant pratiquement 40 ans, qui s'est réunifié en 90 à la faveur de la destruction de l'Irak, et qui aujourd'hui à nouveau devient un risque pour l'Arabie, non pas en termes de contagion idéologique des chiites, mais de contagion idéologique démocratique. C'est ça qui pose problème.
Donc c'est Israël pour aller faire le sale boulot?
Non, pas Israël, jamais.
Non, jamais d'avis.
Non, ils ont peur. Ils sont trop loin.
Bon, alors il faut minimiser, donc on n'a pas... Pour l'instant, pour l'heure, en tout cas, de raison de s'inquiéter finalement.
Je pense que le frontal, il y aura une petite mèche qui va être allumée, mais ça va être vite éteint parce que les États-Unis, les
personne n'a intérêt finalement.
Mais personne n'a intérêt parce qu'il y a.
Ils savent ce que ça leur coûterait.
Ça coûterait trop par rapport au pétrole quand même qui coule à flot, comme on l'a dit tout à l'heure.
Pas
c'est
cher,
une zone,
pas
voilà,
cher.
C'est une zone stratégique. Et aujourd'hui, personne n'a intérêt. Je pense que ça pourrait s'accalmer. Mais les États-Unis d'Amérique, bon, on parle souvent des États-Unis d'Amérique, mais on peut voir aussi. Là, on entend très peu aussi l'Europe.
Il n'y a pas d'Europe.
L'Europe, elle fait.
Alors que on est quand même dépendant de. Des hydrocarbures, donc on pourrait aussi avoir.
Ce qui fait peur à l'Europe, c'est de dépendre de la Russie.
Voilà.
On va voir si justement cette discussion très intéressante entre Dionor, excellent, et Gabalabina, discussion excellente, si je puis me permettre.
C'est moi qu'on puisse dire.
C'est moi qu'on puisse dire. On réussit à peut-être inverser le sondage, la question que l'on vous pose. Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Monji est avec nous depuis Marseille. Salut Monji.
Salut Christophe, salut Gamal, salut notre invité, je n'ai pas entendu son nom.
Il s'appelle Dionor, quel beau prénom mon ami, okay. Dionor.
Dionor, ah, ok. Voilà. Mais en fait, vous avez donné tous les données, sauf la finalité de l'histoire. Sachant que les États-Unis d'Amérique, ils sont actuellement même en excédent en pétrole mais de schiste.
Absolument.
Le problème, c'est que ça coûte trop cher.
L'exploitation,
Pardon.
Allez, dis-le.
J'ai pas entendu.
Vas-y, mon Dieu. Vas-y.
Voilà. Et en fait, le fait de mettre une rétention, ça a tout à fait. On peut rester comme ça sans aller à la guerre. C'est juste ça arrange Trump qui peut remonter son pétrole qui devient rentable. C'est tout simplement ce qui est en train de se passer. On maintient de partout, en fait, il fait toujours la même chose de partout, c'est-à-dire il crée la tension, sachant le poids des États-Unis d'Amérique sur le plan économique, avec le dollar, sur le plan militaire, les autres ils vont céder. C'est un peu le chaos créateur, mais d'une autre façon. C'est-à-dire on va pas au clash. D'ailleurs, lorsque on a vu avec la Corée du Nord, lorsque John Hon il a haussé le ton, Trump il a baissé le ton, et tout simplement parce qu'il veut pas y aller au clash, il veut créer les tensions.
C'est ça, c'est ce qu'on a dit en fait. Manji, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein.
Non, mais que,
quoi,
parce
non.
Que la donnée de la gaz de schiste.
Mais il a raison, c'est vrai que.
Pas été aidé, mais dans la balance. Oui, parce que là, on dit oui, le monde ne peut pas se permettre un conflit par rapport au pétrole, tout ça. Ouais. Et Trump, il veut monter le cours du pétrole pour pouvoir vendre le gaz de schiste et le pétrole et les pétroles américains à bon marché, si vous voulez.
Ouais, ouais.
C'est ça, en fait, le problème.
Et il veut pomper l'Arabie aussi.
Non, pas seulement.
Un peu, quand même.
Pardon.
Oui, il veut aussi pomper l'Arabie Saoudite, leur soutirer un maximum de fric.
Non, mais l'Arabie donne déjà beaucoup d'argent, puisque l'Aramco, tout le monde oublie que l'Aramco, c'est une société américaine, c'est pas une société arabie. Aramco, voilà. C'est American, Arabian American Petrol. Donc, mais une chose intéressante, voilà. Mondji a raison sur un point, effectivement, on l'a pas mis en avant, c'est que les États-Unis sont le premier producteur de pétrole de schiste et de gaz de schiste, et que l'extraction coûte entre 70 et 80 dollars. Aujourd'hui, ils sont déficitaires à telle enseigne qu'il y a des dizaines de sociétés d'exploitation de pétrole de schiste qui ont coulé. Et c'est vrai qu'une mettre une tension dans la région fait monter immédiatement le cours du pétrole et peut rentabiliser ces prix qui pour l'instant ces prix qui ne rapportent rien.
Bon, merci Mondji en tout cas pour ton appel, ton analyse hein, et puis ton voilà sur cette finalité qui était absente des débats selon toi, mon cher ami Mondji depuis Marseille. En tout cas, cet épisode dans Détroit d'Hormuz vendredi, cette attaque contre deux bateaux menée selon les États-Unis rappelons par Téhéran. L'Iran a donc annoncé ce matin qu'il n'entend plus respecter ses engagements pris dans le cadre de l'accord sur le nucléaire en 2015. Dans 10 jours, les réserves d'uranium enrichi du pays, les réserves donc dépasseront les limites qui ont été fixées par le texte. C'est le porte-parole donc qui a annoncé cela ce matin, que l'Iran donc avait multiplié par 4 son enrichissement d'uranium. Elle a ajouté que le stock d'uranium enrichi à 3,67% dépassera les 300 kg d'ici 10 jours. Limite fixée par l'accord nucléaire, rappelons-le, avec les grandes puissances. Ça aussi, ça peut avoir un impact.
Oui, mais c'est les États-Unis qui sont eux-mêmes sortis de l'accord nucléaire. Il ne faut pas le rappeler. Donc c'est encore cher Donald Trump.
Oui, absolument.
C'était super de sortir de cet accord. Alors après, on peut dire oui, Obama a tout raté, mais c'était quand même important cet accord. C'était quand même quelque chose qui montrait que les Iraniens étaient prêts aussi à collaborer, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas à faire monde. Et il faut pas oublier aussi que je crois que c'est le 5 mai, les États-Unis ils ont déployé un porte-avions dans le Golfe, prétextant que voilà, ils seraient prêts à partir qu'on déploie un porte-avions, c'est pas pour juste fêter un anniversaire, c'est dans l'idée où on veut combattre l'Iran. Et il y a cette volonté, d'ailleurs Donald Trump le dit par ses propos, et attention, on peut penser que c'est que de la provocation, mais quand quelqu'un insiste qu'il veut détruire l'Iran, on sait qu'il le fera pas comme ça en claquant des doigts, mais il y a cette volonté réelle de nuire à l'Iran. Et la faiblesse de l'Iran aujourd'hui, comme j'ai tout à l'heure, c'est sa situation économique et politique et sociale.
Dans un instant,
tout à l'heure les chiffres du chômage, mais c'est aussi les situations politique qui est très tendue aussi, qui fait que ce pays ne pourra pas faire face, même si elle devait subir une attaque des États-Unis.
Stop,
ou de ses alliés.
Parce qu'on doit y aller. Voilà. Et dans un instant, tiens, ça va vous rappeler un peu des souvenirs, les gars. Vous avez passé votre bac tous les deux.
Ouais.
Vous rappelez de l'épreuve de philo.
Ouais.
Oui.
Bon, je vous donne les sujets dans un instant, on va les traiter ensemble. Aïe. Le zapping, les infos zappées, et on fera un petit tour par l'Algérie avec une proposition qui a émergé ce week-end. On va en parler ensemble avec vous. 01 40 33 9000, c'est le grand forum, sans oublier le quiz tout à l'heure en fin d'émission. Dionor, Gamal, qui aura le trophée de la Ligue des Champions ou de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence vendredi? Réponse en fin d'émission.
France Maghreb 2.
Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, avec Dionor excellent aujourd'hui avec nous jusque 18h. Je tenais à quand même pas oublier et à te signaler, parce que c'est une nouvelle importante qui est arrivée hier. La famille du LGF s'est agrandie, messieurs, puisque notre ami Bouriaki, Philippe Bouriaki, voilà, est papa depuis hier d'un grand bonhomme hein, qui se porte bien, et la maman va bien. Donc félicitations à toute la famille Bouriaki et bienvenue pour celui qui va remplacer son père d'ici quelques années, évidemment. Donc voilà, la famille du LGF qui s'agrandit, et ça nous fait plaisir.
C'est clair.
Vous avez vu, il est beau gosse, hein, Dionor, tu l'as vu?
Bah, je l'ai vu, et surtout franchement merci à Philippe, il nous a partagé tous les moments le biberon.
C'est super,
et d'ailleurs c'est un bon papa quand même, il donne super bien le biberon.
Il fait genre, hein,
il est resté concentré. À un moment je me suis dit, est-ce qu'il va regarder la caméra? Non, il est resté concentré sur le biberon et le bébé, magnifique bébé. Félicitations aux parents et la maman et les frères et sœurs.
Absolument, absolument. Voilà. Donc demain il sera avec nous, Bouriaki, bien entendu, sur France Maghreb 2. Alors la question du jour, avant de conclure, puisque on a Nordine qui va apporter son point de vue dans un instant, c'est les Émirats Arabes Unis qui ont dénoncé vendredi une dangereuse escalade après les attaques contre deux pétroliers en mer d'Hormuz. Faut-il craindre un nouvel embrasement dans le Golfe? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2. Sur Twitter, le grand forum FM2, on nous append, comme ce qu'a fait d'ailleurs Nordine de Paris, pour nous donner son avis. Bonjour Nordine. Nordine.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Nordine. Alors, vous nous écoutiez échanger tout à l'heure, vous avez peut-être des choses à apporter.
Je vous écoute. Et je respecte tous les points de vue de tout le monde, parmi vous et tous les auditeurs. Mais je peux vous dire exactement le Proche-Orient. Le vrai problème du Proche-Orient, c'est surtout le pays de Golfe. Ni l'Arabie Saoudite, ni l'État arabe, ni le Bahreïn, ni l'Iran. Celui qui manipule derrière, je peux vous dire, c'est le système sioniste qui est installé en Amérique, premièrement. Le lobby et l'EPEC. Ça. D'Israël, l'objectif d'Israël, c'est quoi? Détruire les centrales nucléaires iraniennes. C'était ça l'objectif. Alors il passe indirectement, il utilise les Saoudiens, il utilise les Yéménites pour manipuler tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé en Irak 2002, 82, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie sur la côte syrienne pour les centrales au début, aux chrétiens qui l'ont détruit. L'objectif d'État Israël, c'est de détruire des nucléaires autour d'Israël, c'est-à-dire autour de cet État qu'elle est installée sur les territoires palestiniens depuis 1948. Les peuples palestiniens, c'est un peuple qui a tout à fait le droit d'exister. Ils ont confisqué l'État palestinien et les frontières de 1967, je peux vous dire, ils n'existent nulle part. Aucun pays, aucun État, aux États-Unis, aucun pays qui connaisse cette frontière de 1967. C'est quoi les frontières de 1967? Allô?
Ouais, vous avez entendu, oui.
Oui, les frontières de 1967, c'est une frontière qui a été confisquée par l'armée moussidéenne, l'armée israélienne, ils ont confisqué la Palestine. Maintenant, il reste simplement les partages de 1900. Ils ont partagé la Palestine, ils n'ont pas partagé Israël, parce qu'Israël n'existe pas. Et pour moi, elle n'existe ni. Pour moi, même pour moi, elle n'existe pas. Deux, tous ces problèmes qu'il y a au Proche-Orient, c'est fou, c'est malade mental qui est en Amérique. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement rafler tous les dollars saoudiens, qataris et émiratis, tout ça, tous ces dollars. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut cet argent et en plus, il veut détruire, c'est-à-dire amener le État arabe uni et l'Arabie saoudite avec l'Iran, c'est-à-dire musulmans contre musulmans, soit sunnites ou chiites, pour moi c'est des musulmans, tout le monde. Mais amener l'un contre l'autre, c'était ça leur objectif. Et l'objectif
Nordine, si je peux me permettre.
Les beaux-frères, attendez, les beaux-frères.
Oui, mais on va pas y passer non plus deux heures, Nordine, on a bien compris. On a bien compris, Charlandine, vous voulez en venir. Est-ce que Gamal, peut-être tu souhaites apporter peut-être
une nuance
par rapport à ce que dit Nordine.
Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut
attendez, Nordine, attendez, c'est pas un monologue, Nordine.
Je vais répondre. Le mythe selon lequel Israël contrôlerait l'Amérique ou contrôlerait les pays arabes à son intérêt, Israël profite d'une situation indiscutablement, mais c'est pas elle qui dirige. Il faut être très clair. Qui a créé Israël? Moi, j'en ai marre d'entendre à chaque fois les Juifs contrôlent, Israël contrôle. C'est pas vrai. Ce qui a créé Israël, c'est non.
Non, mais ça, c'est votre ami, Nordine.
C'est les Franco-Anglais, c'est les Franco.
Qui dirige l'Amérique,
c'est les Américains.
C'est
Donald Trump. C'est les Américains qui dirigent l'Amérique.
On va juste
finir. Je vais donner un argument très solide, comme ça, ça réglera la question. Si Israël contrôlait l'Amérique, comme tous les gens semblent rêver et l'imaginer, ça leur donnait un pouvoir extraordinaire. Moi, une démonstration par A plus B sur laquelle vous ne pourrez rien dire. Ça fait 25 ans qu'Israël, qui va aux États-Unis, reçoit des applaudissements du matin au soir, soi-disant, pour le courage de faire face. Je finis. Le courage parce qu'elle fait face aux armées arabes qui seraient des armées tentaculaires. 25 ans qu'Israël va cirer les pompes des Américains pour leur demander le bombardement de l'Iran. Je suis désolé, si Israël contrôle l'Amérique, elle obtient ce qu'elle demande. Elle n'obtient rien du tout. 25 ans que les Américains disent que toujours tu m'intéresses. Ils ne font rien.
C'est clair.
Donc celui qui contrôle, c'est bien l'Amérique. Celui qui a créé Israël, c'est bien l'Occident. Et Israël n'est que le bras armé de l'Occident.
Excusez-moi, si vous me permettez.
Je vous en prie.
L'Amérique, c'est qui? L'Amérique, c'est le lobby juif qui a...
C'est faux. Un lobby, c'est un groupe de pression.
Cinéma, médiatique, journaux, cinéma...
C'est caricatural et vous ne connaissez pas l'Amérique.
Il faut jamais...
Vous ne connaissez pas l'Amérique, monsieur. Monsieur, vous ne connaissez...
Qui fabrique Boeing? Qui sait les capitaux? C'est qui?
C'est qui? Vous savez qui sont les plus riches sur Terre, monsieur? Vous savez qui sont les plus riches sur Terre, monsieur? Je vous le dis tout de suite. Les plus riches, ce sont les grandes familles protestantes et catholiques. historiquement, c'est eux les plus riches. Les Américains ne sont que, enfin, les Juifs américains, si vous parlez des Juifs américains, ne sont que les gestionnaires de fortunes qui ne sont pas. J'entends bien. Oui, je vous dis, ce ne sont que les gestionnaires des fortunes.
Qu'est-ce que vous voyez tous ces débaltrains que vous voyez qui votent Trump, vous croyez, ça c'est rien du tout, ça c'est des gens blancs avec ses cobayes, ses chapeaux, tout ça.
Très bien, je vous donne un argument. Vous voulez un autre argument ?
La bête noire du monde arabe et de la Palestine, monsieur.
C'est qui ?
Les Juifs américains.
Très bien. Qui a détruit l'Irak ?
C'est super caricatural.
Qui a détruit l'Irak ? Monsieur qui ?
Nordine, oui. On n'est pas dans un monologue, on échange, d'accord ?
Qui a détruit l'Irak, monsieur ? Qui a détruit la Syrie ? Est-ce qu'Israël avait un intérêt à avoir la Syrie déstabilisée ? En aucun cas. Israël est en panique parce que la Syrie n'est plus la stabilité qui garantissait au nord de sa frontière une sécurité. Je rappelle que les Syriens n'ont jamais tiré une balle depuis 82. Comment ?
Il a confisqué le Golan aussi, hein. Qui sait qu'il a donné
le Joulan ou le Golan, comme vous l'appelez, Golan. Le Golan, qui est... le Golan, c'est la défaite arabe de 73. Si vous n'écoutez pas, monsieur, vous n'aurez pas l'information. La dernière fois que la Syrie a attaqué Israël, c'est en 82. Ils se sont fait éclater. Depuis, il y a un accord tacite entre les deux États pour ne plus jamais se faire la guerre. S'il y avait vraiment une volonté de la Syrie de reprendre le Golan, ils auraient fait comme l'Égypte en 70. Il y aurait eu une guerre d'usure à la frontière, ce qui n'a jamais été le cas. Les Syriens garantissait la sécurité d'Israël tant qu'il n'attaquait pas la Syrie. Aujourd'hui, ce que vous dites n'est pas valable dans la mesure du... où vous dites, par exemple, les Juifs sont riches. Ils ne sont pas riches, c'est des gestionnaires de fortune.
Non, arrêtez de parler comme ça. Vous utilisez la méthode aussi.
Comment ?
Une méthode sioniste. Vous connaissez
pas. Méthode sioniste. Monsieur, vous ne me connaissez pas et vous ne me connaissez pas et vous êtes dans un discours...
C'est quoi la méthode ? Moi, je ne suis pas... Je peux vous dire exactement la méthode. Les fixes sionistes, il est partout.
Très bien, le sioniste est partout. C'est dommage pour vous.
Vous êtes vachement caricatural, hein, si je puis me permettre. Mais bon, c'est...
Nordine, je vous pose une question. Qui a créé Israël ?
Nordine, c'est soit tu écoutes, soit je te coupe, Nordine. Au bout d'un moment, c'est fatigant.
La question est simple. Qui a créé Israël ? Saïd Picot, deux chrétiens. C'est bien pas des juifs, c'est des chrétiens. Oui ou non ?
Et avec l'argent du qui ?
Non, mais l'argent, c'était des clodos à ce moment-là. Vous me dites quoi ? Rothschild ? Rothschild ?
Et ils ont acheté avec le dollar.
Parce qu'on crée un État avec de l'argent. On crée un État avec de l'argent.
À loin, ils ont acheté les votes des 5 ou 6 pays.
Qui a créé ? La question est simple. Qui a créé Israël ? Mais écoutez-moi. Qui a créé Israël ? Répondez à la question. Qui a créé Israël ? C'est bien ça, Espico, c'est bien les accords franco-anglais. C'est pas les juifs, faut arrêter de délirer. Les juifs ne sont que des gens qui profitent. Vous parlez de lobby. À lobby, le mot anglais lobby, ça veut dire hall en anglais, d'accord, le lobby. Ça signifie des gens qui vont discuter dans les halls pour faire pression. Des groupes de pression, il y en a partout. Vous ne voyez qu'un groupe de pression. Vous voyez l'AIPAC d'un côté, vous voyez le CRIF en France, vous voyez peut-être des brites au Canada.
En France, qu'est-ce que c'est qu'envoyer les fanatiques détruire la Palestine ?
Quel rapport ?
C'est pour ça les anglais sont
Les fanatiques. Si... OK.
Bien sûr.
Donc si je vous écoute, l'Algérie était conquise par Israël.
Comment ?
L'Algérie était colonisée par Israël, si je vous écoute.
Mais non, vous trompez totalement, monsieur. Non, faut croire,
c'est les mêmes pourtant. C'est les mêmes. Je protège rien du tout, je vous dis.
Excusez-moi le mot, mais je ne sais pas.
Je vous dis qu'il y a eu 8. Écoutez, monsieur, mais moi je vous respecte, écoutez-moi.
Je respecte totalement, mais je peux vous dire exactement les vrais problèmes.
Vous les connaissez pas.
Non, et c'est ça le vrai problème.
Non, c'est pas ça le vrai problème, c'est le leadership de la région.
Nordine, tu sais, il y a pas...
Les Saoudiens, ils sont pas assez forts, l'État arabe, ils sont pas assez forts, alors ils manipulent tout ça pour détruire l'Arabie Saoudite, l'Iran, et après, qui sait qui va vendre les armes ? C'est les Juifs américains qui ont toutes... La même
les Juifs américains qui ont les armes, waouh. Oui. McDonald's de glace, c'est un juif, c'est intéressant ça.
Merci Nordine. Bon, il y a pas mal de choses dans vos propos qui sont à nuancer hein, quand même. Dionor.
Bah, je sais pas, j'ai pas eu cette opportunité d'entendre Nordine tout ce qu'il disait, mais j'ai l'impression qu'il parlait de plein de sujets à la fois.
Et que
parce que mon casque n'était pas connecté du coup, mais il m'a semblé que c'était tout un ensemble de d'amalgames sur des sujets qui n'ont rien à voir en tout cas avec ce sujet. Quand bien même c'est bien de revoir le contexte historique de certaines situations de conflit, mais là en l'occurrence il s'agit d'autre chose que de ce que j'ai pu entendre par rapport aux réponses qu'a pu donner Gamal. Donc,
oui, mais tout ça, la faute à qui ? La faute à certains médias, pardon de le dire.
Oui.
Au bout d'un moment, j'en ai marre, moi. Il y a la faute de certains médias qui aujourd'hui s'amusent à manipuler les gens, à faire croire que les Juifs contrôlent le monde et contrôlent la France, contrôlent les États-Unis. Il faut qu'on arrête 5 minutes avec ces conneries. D'accord, effectivement, il y a des lobbies, c'est vrai. Est-ce qu'on peut leur reprocher à justement à cette communauté juive de cette de cette bien organisée, de cette bien respectée, de pouvoir peser? Non, moi j'ai envie de prendre les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous on fait, nous? Qu'est-ce qu'on a apporté, nous?
La vraie question, c'est bien que tu la soulignes, Christophe. D'abord, le délire complotiste de croire qu'un peuple.
Ça va, quoi.
Oui, mais un peuple contre le monde, c'est débile.
Où ça nous mène, ça? C'est débile.
Et c'est débile, ça n'a pas de sens. Il n'y a personne qui contrôle le monde. Si c'était vrai, franchement, ce serait des dieux.
C'est l'argent qui contrôle le monde.
Et l'argent n'a pas d'odeur. D'accord, la reine d'Angleterre, elle n'est plus.
Et les États-Unis d'Amérique, c'est Donald Trump, le président, avec des personnes qui ont.
La question, c'est quoi? C'est pourquoi nous sommes défiants?
Capitalistes.
Je suis d'accord. Pourquoi nous sommes faibles? Parce que les Juifs, ils ont quand même. Manger sévèrement. Ça fait à peu près un peu plus de 1000 ans maintenant qu'ils s'en prennent plein la tronche là où ils vont en Europe. À chaque fois, il y a des pogroms, des massacres. Et la dernière fois qu'ils ont mangé, entre 40 et 45, où là, c'était le festival. Ils en ont tué 5 à 6 millions, on n'a pas le chiffre exact. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont été massacrés à grande échelle et qu'à ce moment-là, ils se sont dit, bon, on va peut-être commencer à s'organiser parce que c'est bien dangereux pour nous. Avant 45, il n'y avait aucune solidarité entre les Juifs. Faut le savoir, hein. Les gens se rendent pas compte que nous sommes les Juifs des années 30. C'est-à-dire que nous ne sommes pas solidaires entre nous parce qu'ils n'étaient pas solidaires. Et qu'ils ont subi un massacre à grande échelle, ça les a poussés à effectivement s'organiser et éventuellement rêver d'un État qui a été accordé par les Européens. Mais il faut bien se comprendre un truc, les Juifs en Palestine aujourd'hui, c'est quoi? C'est les mêmes Juifs qu'on a chassés d'Europe, c'est les Juifs dont on voulait se débarrasser. Je veux dire, rappelons-nous quand même que lors de Balfour, très célèbre pour avoir été un des principaux de la promotion
1917.
La promotion d'Israël est un énorme antisémite, et on en connaît beaucoup d'antisémites qui adorent Israël pour se débarrasser de leurs Juifs. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se dire, ce genre de discours complotiste, il voit trois noms de banquiers. Les banquiers sont tenus par les Juifs. Moi, je pose la question, est-ce que vous connaissez des banquiers chrétiens incapables d'en donner un? Parce que les chrétiens, ils se cachent, ils se montrent pas, ils sont malins. Quand je parle des chrétiens au sens large, je parle des protestants, des catholiques, des orthodoxes, ils sont aussi très riches, mais on le sait pas. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est se dire, c'est vrai que la responsabilité des médias est énorme, parce qu'on met toujours la focale sur 2-3 animateurs juifs, 2-3 sites de télévision, et on a l'impression qu'ils tiennent le pavé. Mais voilà. C'est pas vrai, ils tiennent rien, ils sont payés. Hanouna, par exemple, on l'a présenté, il gagnait 50 000 euros par mois. C'est bien qu'il gagne 50 000 euros par mois. Mais son patron, c'est Bolloré, et lui, il le paye. Donc, combien il y a de Bolloré? Personne pose la question. Donc, c'est pas moi, l'exécution de tâches qu'on peut virer du jour au lendemain ne compte pas. Ce qui m'intéresse, c'est le décideur. Et c'est toujours le problématique aujourd'hui, qu'on ne voit pas le décideur.
Bon. Et puis, au-delà du décideur, c'est que on sait très bien que les questions d'intérêt financier, c'est pas une question de juifs, de chrétiens, de païens. C'est une histoire de business. Les gens qui ont de l'argent sont avec les gens qui ont de l'argent. Et d'ailleurs, on le voit sur les questions aussi de le racisme, ou là où les gens seraient concentrés, la misère. Mais la misère, les pauvres sont avec les pauvres, les riches avec les riches. Absolument. Et le mec qui a du fric, il s'en fout de qui habite à côté de lui. Tant que son voisin, ben, il est blindé comme lui, ses gamins viendront peut-être taquer à sa porte pour demander peut-être un sou ou deux sous. Mais c'est une question aussi d'organisation sociale, et il faut pas non plus tomber dans l'amalgame systématique et en stigmatisant une ou deux personnes qui seraient dépositaires d'un complot, d'une organisation contre. Bon, ça c'est facile, je suis entièrement d'accord avec toi.
Voilà. Et ça l'est encore d'ailleurs.
Tout à fait. Malheureusement, ça fait vendre, ça fait vivre certaines personnes.
Voilà. J'aime bien
vivre dans ces fantasmes anti un tel et une telle.
Bah, moi j'ai un rapport à l'histoire qui m'intéresserait beaucoup sur cette période-là, énormément, et j'ai lu Hannah Arendt sur les questions du juif honteux, en gros, hein, pour faire simple. Le problème des juifs dans les années 20 et 30, c'est que certains se sont dit, ils sont affranchis de leur judaïté. L'irréductibilité de la judaïté qu'Hannah Arendt annonce, eux, ils ont dit, on sera pas juif, on sera bourgeois. Ce juif bourgeois était devenu un juif honteux, qui avait pris tous les codes allemands, et un jour, ils sont arrivés des lois racistes de 35, les lois Nuremberg, qui ont dit, non, toi, t'as beau être riche comme nous, tu restes un juif, tu dégages. Et ils ont été mis en marge de la société immédiatement après avoir été identifiés comme étant un corps étranger.
Ouais.
La question qui se pose aujourd'hui ici, effectivement, c'est que à nouveau, et c'est inquiétant en réalité, on montre les juifs du doigt pour dire, quand on dit par exemple, quand le déséquilibré d'extrémistes de droite qui tient la tête de l'État d'Israël dit c'est un État juif, il est en train de mettre le paquet pour que les gens aient la haine contre les juifs. Alors que moi, je suis désolé, je le dis plusieurs fois, je le répète de façon claire aujourd'hui, je serais vraiment écœuré en tant qu'arabe arabo-musulman, qu'on me renvoie parce que mon islamité est là, à l'Arabie. Je me sens aucun point commun avec les Saouds. Et je plains tout mon cœur chaque juif pratiquant, et combien respectable est sa religion, puisque je rappelle que c'est quand même la première religion monothéiste, de devoir à chaque fois se justifier de l'État d'Israël, alors que c'est pas son pays,
non,
l'État d'Israël.
C'est des gens qui c'est sont pas sur sa religion. Discours de la peur.
Oui, mais c'est pas sa religion, Israël. Sa religion, c'est le judaïsme.
Voilà, c'est ça, faut pas confondre. Daoud est avec nous pour terminer son sujet avant qu'on passe à autre chose. Daoud.
Oui, bonsoir à tous.
Bonjour Daoud. Ça marche ton casque là, mon Dieu Nord.
Bonsoir, je voulais intervenir sur le sujet là. là, juifs, tout ça, les Israéliens, tout ça. Je pense que Gamal fait une erreur historique quand il dit que les juifs, quand les juifs, il dit que c'était seulement des personnes qui géraient l'argent des fortunés. Je pense qu'il a oublié un homme important qui était Theodor Herzl.
Si, non, j'ai pas oublié.
Voilà, Theodor Herzl, en 1909, va voir le roi, on va dire le paradisiarque ottoman, Abdulhamid, et lui propose d'enlever toutes ses dettes qui étaient environ à, si on remet ça à la somme en euros, c'était 200 ou 300 milliards d'euros. Il propose d'effacer cette dette contre des territoires en Palestine. Quelle est la réponse du sultan?
Il a refusé.
Il a dit exactement, les terres se prennent par le sang et se rendent par le sang. Donc, si on vous écoute, monsieur Gamal, vous dites c'est des clodos. Comment
aller payer...
C'est pas ce que j'ai dit, mais
il a pas dit ça, attention.
C'était imagé, mais c'est pas grave.
Ouais.
Mais il a sorti le mot clodo.
C'est une façon de parler, c'est une plaisanterie pour dire qu'ils n'ont pas le pouvoir.
Ouais, mais d'accord, bon, bref. Après, sur ce sujet-là, moi je pense que Nordine, c'est mal exprimé. Mais on peut pas nier le lobby israélien.
Non, on ne lit pas le lobby, on lit le pouvoir, c'est pas pareil.
On le nie pas, il y a plein de lobbies. Il y a pas qu'un lobby. Non, mais il y a pas qu'un lobby en France. Il y a plein de lobbies dans tous les milieux agroalimentaires. Il y a le lobby du nucléaire. Il y a le lobby des finances, du lait, ce que vous voulez, des cacahuètes et des chips. Il y a des lobbies dans tout où il y a, dès qu'il y a un intérêt financier, économique, où il y a du business, il y a du lobbying. C'est tout.
Je vais répondre à ce qui a été dit l'instant.
Non, mais à l'instant,
c'est Herzl.
On compare des cacahuètes. Qu'est-ce que ça
n'a
rien à voir.
Bah si, Carter était producteur de cacahuètes, c'est un lobby.
Bah oui, il y a des mecs qui vont là-bas.
Non, mais c'est pour expliquer d'avoue qu'il y a des lobbies partout.
C'est incomparable.
Mais non, on va répondre à la question. Alors, Theodor Herzl, il fait la déclaration au congrès de Bâle en 1898. Il dit, il nous faut d'ici 50 ans un état, un foyer national juif en Palestine. C'est ce qu'il dit.
D'accord.
Il faut deux guerres pour qu'il finisse par l'obtenir. Des massacres sans nom pour qu'il obtienne ce rêve. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est pas lui qui le fait, cet état. Depuis quand? Parce qu'il a eu le soutien à la famille Rothschild, d'accord? Rothschild a fait sa fortune sur le roi d'Allemagne, je rappelle. Enfin, le Guillaume de Prusse, c'est lui qui lui a fait sa fortune, parce qu'il gérait des fortunes.
Il y a aussi Rockefeller.
Non, Rockefeller n'est pas juif, faut arrêter de délirer, faut arrêter
de tout.
Il n'est pas juif, Rockefeller. C'est ça me fait rigoler.
Quelles sont tes sources, Gamal?
Je t'invite à te renseigner toi, parce que t'es très mal informé. Rockefeller n'est pas juif, c'est Rothschild qui est juif.
Et je signe.
Ok, très bien. Donc tout le monde est juif, à ce moment-là, on peut y aller. Bon,
je pense que.
Dans tous les cas de figure.
On va faire un sujet sur les lobbies.
Pour faire simple, Rockefeller, alors cadeau, Rockefeller est juif, cadeau, il n'y a pas de problème. Ces deux milliardaires qui peuvent créer un État, depuis quand? Depuis quand on crée un État avec des milliardaires? Depuis quand on est capable d'avoir une armée avec un milliardaire? Un avion de combat, ça coûte. Non mais je finis, un avion de combat, ça coûte combien? Vous faites 10 avions de combat avec un milliard. Eux, ils n'ont pas 100 milliards. S'il faut un État, il faut une armée structurée, il faut une idéologie, il faut une puissance. Et maintenant, je vais faire une démonstration très simple pour finir. Combien y a-t-il eu de croisades au Moyen-Orient? La question est simple, il y en a eu 8. D'accord? Ils ont échoué sur les 8 croisades. Comme par hasard aujourd'hui, ils utilisent le peuple juif pour pouvoir revenir là-bas et pour pouvoir contrôler la zone où il y a le plus de pétrole et de gaz au monde. Donc faut se poser la question sur un plan géostratégique. Pourquoi on a utilisé le peuple juif? C'est vrai que c'est le peuple juif qui a été utilisé, qu'on a martyrisé, pour les envoyer massivement là-bas avec l'Exodus, comme on l'a appelé, et pour une fois qu'on les a envoyés là-bas, leur donner des armes pour pouvoir prendre pied dans la région. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas de savoir si les juifs ont le pouvoir pour pousser les chrétiens à les envoyer là-bas. Chaque fois que les juifs ont été confrontés aux chrétiens, je rappelle l'Andalousie, avec Isabelle la catholique, ils ont été massacrés. Ils ont dû se réfugier chez les musulmans. Donc la raison qui se pose, c'est pourquoi aujourd'hui les juifs seraient plus intéressants pour les Européens qu'ils l'étaient hier. Tout simplement parce qu'il y a des rapports financiers évidents.
Oui, parce que d'un côté, pourquoi Israël a été créé? Parce qu'il y a une double. Parce qu'en fait, il y a un bénéfice double. Parce que d'un côté, les juifs retrouvent leur terre entre guillemets historique.
Tout le monde s'en foutait, mais c'est pas grave. Et le deuxième raison.
J'ai pas l'impression d'avoir coupé, Gamal.
Non, mais pas de problème, j'écoute. Il n'y a aucun problème.
Vas-y.
Bon, bref, déjà, premièrement, ça fait un état pour les juifs. Et deuxièmement, c'est le chien de garde de l'Europe là-bas. Donc à chaque fois, ça crée une base indirecte. Donc à chaque fois qu'ils doivent intervenir, même si les pays, à côté, ne veulent pas leur passer leur territoire ou leur je sais pas, leur armée, ils viennent en Israël. Donc ça fait une pierre deux coups. Mais, et tu m'as pas répondu comment, alors, comment ils ont voulu rembourser la dette ottomane
contre de la terre.
Alors déjà pour commencer, la dette, la réponse du sultan n'est pas tout à fait celle-là. Il a dit on ne répare pas une faute par une faute, et il a dit on va pas faire la justice aux Palestiniens. C'est ça qu'il a dit, il a pas parlé de ça.
Non.
Mais c'est une question de source après.
J'ai lu les lettres de Théodore Herzl, je les ai lues.
Oui, c'est ce que dit Théodore Herzl, c'est pas ce que disait le sultan, et je t'en renvoie à lire ce que disait le sultan. Après, au-delà de ça, une fois que le califat se casse la figure en 24 après la Première Guerre mondiale, la question juive se pose toujours, elle n'est pas réglée. Ils achètent des terres, c'est vrai, et il y a un soulèvement palestinien c'est un Syrien qui tient la tête du soulèvement, qui se met à s'opposer à la présence massive de colons. Ils sont perçus comme tels. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les Juifs, faut savoir un truc, ils étaient 3% de sionistes avant la Seconde Guerre mondiale. 3%. Après le traumatisme, ils deviennent tous sionistes. C'est la question qu'il faut se poser, c'est quel est le rôle des Européens là-dedans? Et bizarrement, tous ces Européens qui aiment tant les Juifs les ont à fond encouragés à dégager. Faut se poser les bonnes questions. Et le problème, c'est que la question n'est pas posée. Donner un foyer national juif à un peuple dont tout le monde se fichait avant 45, j'y crois pas une seconde. Par contre, avoir une armée permanente dans la région, ils ont déjà une armée permanente, elle s'appelle l'Arabie. S'ils veulent pas d'Israël, ils s'en débarrassent. Aujourd'hui, ils ont déjà des états inféodiques qui ont été créés par l'Angleterre, je rappelle. Mais je réponds que le montant est faux, 300 milliards c'est faux en plus, c'est pas un vrai montant. En euros c'est faux, mais c'est pas grave.
J'ai lu les 10 lettres, je les ai chez moi. J'ai le livre, si vous voulez, je vous l'envoie.
Avec plaisir.
Ça veut dire le français et le turc, il n'y a pas de problème.
Ouais, mais le livre n'est pas, si je peux me permettre, n'est pas un argument d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aussi interprétations, plusieurs sources. Il faut croiser les sources. J'interviens pas trop longtemps dessus. Mais moi, je pense que c'est bien de lire et c'est bien que vous appuyez sur un ouvrage que vous avez lu, ces lettres. Mais c'est bien. Mais après, il faut croiser aussi les sources et être dans une démarche de vérité historique, détachée de tout point de vue personnel.
Et il faut. Le porte-parole du congrès de Bâle.
Non, mais il faut aller. Mais qui est Théodore Herzl? Il faut revenir quand même à la base. C'est un journaliste. Avocat. Non, pas du tout. C'est un journaliste.
Journaliste avocat.
Non, c'est un journaliste avant toute chose. L'avocat, ça compte pas. C'est un vrai journaliste qui fait un travail de.
Ça compte pas. Un journaliste, ça compte. Un avocat, ça compte pas.
Mais j'explique pourquoi. Parce que.
Comme vous voulez, monsieur.
Non, pas du tout, pas du tout. J'explique pourquoi. Parce que dans son métier de journaliste, il communiquait beaucoup sur cette question-là. Et un journaliste, il est là pour vendre. D'accord? Donc, ses courriers, on peut en dire ce qu'on veut. L'authenticité, c'est. Je vais donner un exemple très concret. Et là, je vais
taper. Vous faites penser à l'affaire Dreyfus.
Non, pas du tout. Je vais donner un exemple très concret et très fort. Très très concret, très fort, à part bondir. Je vais parler de Adolf Hitler, comme ça c'est amusant. J'ai eu une polémique il n'y a pas longtemps avec quelqu'un.
Financé par qui?
Ça c'est pas important, on en parle plus. C'est là on va
trop. Attendez, on se câble les gars. Là vous avez trop d'apartés là.
Ouais, on va rester sur ce sujet-là, après on verra. Le financement américain est pas problème, c'est trop long. Maintenant pour faire simple, Adolf Hitler, on prête à Adolf Hitler des propos d'amour de l'islam dans un bouquin qui a été publié par un antisémite, un néo-nazi suisse en 52 qui prenait.
Erroné, je sais.
C'est pas que c'est erroné, c'est que Martin Bormann, qui était son nouveau secrétaire personnel, a pris des écrits tables supposés qu'il appelait les propos de table d'Adolf Hitler, dans lesquels il aurait dit qu'il adore l'islam. Bon, alors faut être très clair. Hitler détestait le judaïsme.
C'est contredit par
ça. C'est un beau roman,
oui,
ça.
Oui, bien sûr, mais c'est quand même les écrits de tables de Bormann.
Jamal, parce qu'on est en retard. Vas-y.
Justement, les écrits de tables de Bormann étaient largement discutables. Il n'y a pas eu de preuve, si ce n'est que. Bah oui, bien sûr que c'est discutable.
Bon, hey, Jamal, on boira un petit café avec une avec petite plaisir, chicha Daoud. Avec Jamal, d'accord?
Avec plaisir.
Ça te va ou quoi, Daoud?
Ça marche, y a pas de soucis.
Un café turc si tu veux, y a pas de problème.
Avec plaisir.
Comme vous voulez.
J'adore, sans problème.
Un café yéménite, c'est le meilleur du
monde. Ah, alors là, tu mets tout le monde d'accord. Salut mon Gamal. Daoud, pardon.
Allez, bon courage.
Salut Daoud. Merci. Bon, c'est bien. Il y a des discussions tranchées, tranchantes.
Il y a des sujets quand même. Ouais, à traiter, bon, quoi. C'est super.
Oui. On y va, on enchaîne. Alors, à tout de suite. Pub, à tout de suite.
France Maghreb 2.
Le grand forum, on est là messieurs dames avec Jamal Abina, le Stéphane Bern de France Maghreb 2.
Stéphane Bern. Je sais pas si je veux bien le prendre.
Bah si, il a des connaissances.
Non, il est très fort.
C'est ce qui est royauté, le roi, la reine.
C'est la virilité qui est pas là.
Royaliste. Oh, arrête, pas sur ce terrain là.
Non, j'arrive. Moi je l'aime bien.
Oui, bah oui, moi aussi je l'aime bien. Bon, tiens, si on parlait un peu du bac, tiens les gars, tiens, vous ferez peut-être moi les malins.
Le bac ou le bac?
Le bac, tout le monde l'a, paraît-il, ou encore faut-il le passer. Le grand jour est arrivé en France. Début des épreuves ce matin avec la traditionnelle philosophie. La morale est-elle la meilleure des politiques? Est-il possible d'échapper au temps? Ce sont quelques-uns des sujets sur lesquels ont planché les quelques 550 000 candidats de la filière générale ce matin. Est-ce que ça vous donne envie, les gars?
Le temps, ça m'intéresse. Charge du temps perdu, mais c'est dur. Dur.
Mon cher Dionor, ça t'inspire?
Ce qui est intéressant dans ces sujets, ça permet. Après, il faut avoir la bonne lecture du sujet parce qu'on peut faire du contresens du hors-sujet même des fois. Donc non, c'est intéressant. Après, c'est une épreuve. D'ailleurs, la France, je crois que c'est l'un des seuls pays, si je me trompe, à conserver cette épreuve ou avoir cette épreuve de philosophie. Et
ah ouais,
je pense que c'est une, ouais, je pense que c'est une matière même qui devrait être enseignée dès la seconde, parce que franchement, ouais, terminal, on arrive avec des tout découvrir tous les grands philosophes, ouais. et juste le petit coup de gueule, c'est que ce qui est dommage aussi, c'est qu'on reste trop sur la philosophie occidentale et on devrait, on aurait intérêt à orienter aussi les gamins à connaître les autres courants philosophiques du monde. Et là où il y a d'ailleurs beaucoup de philosophes dites occidentaux ont piqué même des fois les concepts,
ouais,
des philosophes orientaux ou
ah
Afrique.
Oui. Non, mais c'est vrai,
rien, hein,
c'est, bon, alors tiens, on va vérifier cette info parce qu'elle m'étonne quand même.
Je crois qu'il y a très peu de pays d'Europe, hein, à vérifier qui ont les preuves.
Il me semble que l'Allemagne ne peut pas échapper,
voilà, à cette. Mais la France est quand même est un très bon élève là-dessus, à avoir, oui, cette fili-, à avoir, en tout cas cette épreuve au baccalauréat.
Bon, donc, les infos zappées, les gars, ça vous dit, tiens, encore du bazar au sein du CFCM. qu'est-ce qui se passe au CFCM? Ben, à 78 ans, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Poupaka, rempile à la présidence du Conseil du Français à compter du 1er juillet. Parce qu'en fait, tout simplement, le temps pour l'institution d'organiser de nouvelles élections, reportées comme l'avait annoncé d'ailleurs plusieurs médias, donc ça c'était en avril, à l'issue du conseil d'administration, eh bien, organisé à la Grande Mosquée de Paris, le 16 juin, il a été convenu que la date des élections pour les identités régionales serait fixée au 19 octobre, suivi de l'élection du bureau, l'exécutif, le 3 novembre 2019. En attendant, eh bien, c'est pas Ahmed Ograt qui prend fin, hein, le 30 juin, son mandat, et c'est Boubacar qui en rempile pour la troisième fois, puisqu'il a déjà été président de cette institution entre 2003 et 2005, entre 2005 et 2008, et puis il a repris aussi la relève en 2013, et donc là, il le reprend de manière temporaire, voilà, donc...
Il l'a fait à la Bouteflika, quoi.
Non, mais on voit que c'est un
Algérien. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi.
On voit que c'est un Algérien, quoi. Un petit jeune de 78 ans, ça va.
Ouais, voilà.
Bon, ça c'était pour le petit côté bazar au sein du CFCM, toujours et encore. Tiens, la présentation du plan de paix de Washington pour résoudre le conflit israélo-palestinien pourrait avoir lieu en novembre. C'est une information qui aurait fuité. Donc c'est une information qui émane, pardon, donc du gouvernement israélien, selon le conseiller du président américain Donald Trump, pour le Proche-Orient. Apparemment, il y a des choses qui vont être proposées en novembre. Qu'est-ce qu'il faut en attendre?
Rien, comme d'habitude.
Rien, d'accord. Ok. Donc on passe à autre chose, on la zappe. Sinon, tiens, le président américain qui s'en est pris encore à qui? Eh bien, au maire de Londres. Ça s'est passé samedi, avec une certaine agressivité, comme on a l'habitude. Sadi Khan, qui devrait céder sa place, selon lui, au plus vite. Voilà, ça c'est le petit acte de Trump envers Sadi Khan, ouais, le maire de Londres.
Un petit coup de racisme habituel.
Ouais.
Ouais, clairement.
Et puis une cinquantaine, alors ça c'est une information qui est passée complètement inaperçue et qui est pourtant très grave, messieurs. Une cinquantaine de militants de BDS qui s'est réunis, qui ont manifesté devant la marque Puma, qui est, vous le savez, la marque maintenant de la Fédération israélienne de football. Et la LDJ s'est targuée, s'est vantée sur son site d'avoir fait voler quelques dents de ses militants.
Ouais.
Voilà. Voilà les méthodes de la LDJ.
Bah c'est des voyous, hein, ça change rien.
Nadique, t'es danseuse juive. Comme je les appelle moi, ouais, régulièrement. Voilà un petit peu dans les infos zappées qu'il ne fallait surtout pas zapper. En l'occurrence, vous saurez maintenant un petit peu de quoi il en revient concernant ces sujets. Tiens, on va passer maintenant, si vous voulez bien, avant de parler et de filer en Algérie, où il se passe des choses aussi, tout de suite avec le zapping.
Si on prend 100 millions d'Africains
d'un remplacement de population.
Bon, voilà, parce que les mots bamboula, d'accord, c'est...
Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba.
La réémigration, c'est le départ des immigrés.
Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible?
Donner une bonne dose de cheval.
Je vote pas de votre calme, mais je me sens très bien.
Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons.
On va commencer, messieurs, ce zapping par un premier extrait. Et pour commencer, donc, ça s'est passé samedi soir au Stade de France, à l'occasion de la finale du Top 14, où d'ailleurs le président de la République a été copieusement sifflé samedi soir. Un joueur de rugby à la fin du match est venu demander une faveur et poser une question au président de la République. Écoutez.
Comment ça va?
Ça va et vous? Je veux pas avoir la nationalité française, s'il vous plaît.
Très bien.
Je suis très fier d'être en France.
Eh ben, on lance la procédure.
Allez,
on a une autre raison de vous avoir.
Merci, monsieur.
Voilà, merci à vous.
Max Van Dijk qui demande en direct la nationalité française.
Un joueur de rugby qui demande la nationalité française au président de la République au Stade de France, messieurs. Ça s'est passé samedi soir. Vous avez entendu.
Ça fait un peu mendiant.
Ah ouais.
Un peu quand même.
Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le zapping? Invité de Bourdin, tiens. Oh, Berger ce matin nous informe que les Français attendent qu'on leur parle de quoi? D'immigration.
Est-ce que l'immigration sera l'un des sujets majeurs de l'élection présidentielle de 2022?
Ce sera, et c'est en fait, un des sujets d'importance pour les Français. C'est eux qui nous en parlent, c'est eux qui veulent savoir comment à la fois on va mieux réguler les flux migratoires et comment on fait en sorte pour mieux intégrer, parce que c'est ça le corollaire. Oui. On parle en permanence des flux migratoires. Oui. Mais ce qui compte, c'est une fois que les personnes sont en France, une fois qu'elles sont accueillies, comment on fait en sorte de bien les intégrer au sein de la société française. C'est pour ça, par exemple, qu'on a doublé le nombre d'heures de cours de français.
Attention, parce qu'au bac, là,
pas passé.
Votre moyenne baisse. Dites-moi, Aurore Berger, vous dites on va réguler l'immigration, mais ça fait des années que j'entends parler de régulation de l'immigration. Comment réguler, mieux réguler? Je parlerai d'intégration après, mais comment mieux réguler l'immigration?
Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'immigration. Est-ce qu'on parle du droit d'asile? Est-ce qu'on parle de l'immigration économique?
On est d'accord.
Est-ce qu'on parle de l'immigration familiale? On mélange souvent un peu les sujets et certains, à dessein, cherchent à mélanger les sujets. Donc d'abord, il y a la question du droit d'asile. Mmh. Et là-dessus, c'est évidemment comment on protège nos valeurs. Mais comment on fait en sorte que le droit d'asile soit pas dévoyé? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en France, qui font une demande de droit d'asile, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas en bénéficier. C'est notamment le cas des personnes qui sont des ressortissants albanais ou géorgiens. Et donc là, c'est évidemment faire en sorte, eh bien, d'avoir une politique extrêmement claire et extrêmement ferme sur le droit d'asile. Parce que si on veut le préserver, si on veut faire en sorte de continuer à accueillir ceux qui méritent
Sauf
de l'aide, il faut être très ferme.
Quand on dépose une demande d'asile, on attend longtemps.
Et bien, c'est pour ça qu'on a. Pour ça, un, qu'on a augmenté les budgets.
Vous voulez réduire à 6 mois.
Exactement, hein, on a voté cette loi, il faut faire en sorte maintenant qu'elle puisse s'appliquer.
Exactement, mais pour l'instant, il n'y a pas d'application.
On a voté cette loi, vous vous souvenez des débats qu'on a eu au moment de cette loi.
Voilà, Aurore Berger, immigration, messieurs, ça donne envie hein, tout ça.
Pas toujours.
Ah, ouais.
Je sais pas pour qui elle parle ou elle parle à son nom au gouvernement, mais ce qui est intéressant, c'est que les exemples qu'elle donne et puis la question des Géorgiens, des Albanais, c'est vrai qu'il y en a des millions en France qui demandent le droit d'asile. Ouais. C'est super intéressant et puis on sent que c'est quelqu'un qui a besoin d'exister un petit peu, je sais pas, politiquement.
Mais cela fait suite, pardon, à une tribune de Castaner sur justement l'asile, l'immigration. Est-ce que c'est un sujet qui va revenir sur la table? Est-ce que c'est un sujet sur lequel peut-être le macronisme va essayer de travailler parce que ça marche bien, c'est populaire.
Ah oui.
Hein, les gars.
Quand on voit
est-ce que c'est pas un signe que ce macronisme se droitise?
Oui, les élections les ont ridiculisées. Les dernières élections ont laissé le FN devant eux pour la première fois de l'histoire, je le rappelle quand même.
Ouais, ils sont pas si ridicules que ça, gars.
Non, pas ridicules, ils ont fait un bon résultat, mais le FN était devant. Quoi qu'il en soit, même s'ils ont le même nombre de députés, en pourcentage, ils ont été dépassés. Ce qui veut dire que les questions du FN sont maintenant devenues centrales, malheureusement. La droitisation des esprits est présente. Et que l'obsession, et c'est là où on se pose des questions sur la psychologie de ces gens, l'obsession, c'est quoi? C'est pas de solution économique, donc on tape sur la tête de l'immigré, et ça revient tout le temps, c'est une obsession.
Ouais.
Alors que le croisement aujourd'hui des baby-boomers qui vont bientôt tous être à la retraite, va devoir. Ça va faire un appel d'air énorme pour avoir des travailleurs nouveaux, comme l'Allemagne l'a déjà anticipé, puisque les Allemands ont intégré, puisqu'à part l'intégration, ou inséré socialement, 1 million d'immigrés, donc c'est massif, hein. C'est pas les 20 000 qui arrivent par-ci par-là. Et eux, ils ont ces questions-là, pourquoi? Parce qu'ils voient les sondages. Les Français sont inquiets pour l'immigration, sont inquiets pour l'écologie, sont inquiets pour le chômage, donc quand on voit que ces trois référents reviennent toujours comme des marronniers, eh ben on se dit, on va commencer à parler de ces questions qui fâchent, c'est tout.
Bon. Oui. Alors en tout cas, il y en a à qui ça fait plaisir, hein, quand on évoque immigration. Quand on le remet sur la table, un certain, tiens, Robert Ménard, le maire d'une ville en France, là.
Un immigré, lui aussi.
Tout ce qui limitera l'immigration de masse est le bienvenu. Est-ce que ça suffit à limiter l'immigration de masse? Je n'en suis pas sûr. Mais tout ce qui la limite est bien entendu, j'y suis évidemment favorable. Là encore, je ne vais pas être extrémiste ou tenir des propos. C'est une bonne idée si des gens le faisaient.
Bon, voilà, ils sont satisfaits.
Mais qu'est-ce qu'il entend par immigration de masse, comme l'a rappelé Gamal tout à l'heure? Et c'est vrai que l'Allemagne, on se disait Angela Merkel, elle accueille les migrants, mais elle est intelligente parce que son économie en a besoin. C'était pas non plus par charité de cœur. Mais aujourd'hui, on voit déjà la terminologie immigration de masse. On peut pas accueillir tout. Ça va venir petit à petit. Ouais. Et j'espère qu'on n'aura pas une campagne pour les prochaines présidentielles basée sur ça. Mais là, on sent que les sujets fondamentaux sont là, alors qu'on a eu quand même plusieurs semaines de mobilisation des gilets jaunes. La préoccupation principale des Françaises et des Français, ce n'est pas l'immigration, malheureusement, chers messieurs et madame et mesdames.
Tiens, pour finir, un autre sujet, pour preuve que le dérèglement climatique est bel et bien au rendez-vous. Écoutez bien ce chiffre, il fait vraiment froid dans le dos, écoutez.
Un chiffre à faire froid dans le dos, 2 milliards de tonnes de glace ont fondu en une seule journée, jeudi, au Groenland. En témoigne cette photo, prise par un scientifique, qui donne l'impression que les chiens marchent sur l'eau. C'est en réalité une épaisse couche de glace qui est en train de se transformer. Un phénomène inquiétant lié à un printemps précoce et particulièrement chaud, puisque des températures dépassant les 20 degrés ont été relevées par endroits.
Ça, c'est les vrais problèmes, les gars, ça.
C'est clair.
Ça, c'est les vrais problèmes qui nous concernent tous.
Absolument.
Tous, habitants de la Terre.
Et en plus, il y a un lien avec l'immigration, parce qu'on ne parle pas des futurs migrants climatiques.
Absolument.
C'est des millions de personnes qui arriveront partout dans l'Europe ou ailleurs, parce qu'ils ne pourront plus habiter leur région à cause du dérèglement climatique. Et là, je vais voir ce qu'ils vont nous sortir, les Ménards et les compagnies. Ils vont dire retourner dans l'eau, ils vont laisser les gens vivre dans l'eau, ou, je sais pas, mais bon, bref. En tout cas, c'est un vrai sujet.
Exactement. Il faut jamais oublier que Ménard est un immigré aussi. Hein.
Oui.
Et par deux fois, en plus.
D'ailleurs, on l'est tous.
Lui, vraiment, c'est immigré de fraîche date, de 62. Avant encore, en Algérie, c'est un immigré. Enfin bon, prendre des leçons d'un
c'est bizarre que
un immigré de souche.
Non, mais Gamal, c'est vraiment très particulier de voir que un monsieur change de la sorte, parce que moi, je l'avais rencontré. Lorsqu'il était président de Reporters sans frontières, je peux t'assurer qu'il n'était pas du tout comme
c'est
ça.
Vrai. Oui, c'est pas le même personnage, mais
ça a complètement changé.
Il y a un verre d'eau. Le verre d'eau. Il a pris un verre d'eau de la part d'un certain agitateur politique très connu, Klarsfeld. Et depuis ce jour-là, à mon avis, ça a complètement fait sauter les fusibles, parce qu'il est passé d'une position quand même de RSF, c'était pas rien. À des postures racistes, littéralement. Mais je crois que la raison pour laquelle il a mal vécu sa haine, clairement, des immigrés, d'abord, parce qu'il y a un sous-jacent familial qui est lourd, hein, ça a rapatrié l'Algérie française, pour le coup, et surtout parce qu'il s'est fait virer du Qatar. Ouais. C'est un poste qu'il occupait, il était grassement payé, ils l'ont viré du jour au lendemain. À mon avis, c'est pas passé.
Algérie, justement, on en parle, la transition est toute trouvée, mon ami Gamal. Mmh. Près d'une centaine d'organisations de la société civile algérienne ont appelé samedi à une transition de 6 mois à 1 an maximum, pilotée par une ou des personnalités consensuelles, pour organiser l'élection d'un successeur au président Bouteflika. Tiens, je me suis dit, on va la mettre sur la table, ce sujet, cette proposition, parce qu'elle est intéressante. Beaucoup, évidemment, parlaient d'élections. Bon, on a vu qu'il n'y a plus d'élections en jeu pour l'instant. Mmh. On voit que la justice, en ce moment, opération main propre en Algérie, menée et pilotée par un certain Gued Salah, n'en déplaise à certains. Soit dit en passant, cher Gamal, est-ce que c'est une solution, une espèce de mettre entre les mains deux personnalités ou d'une personnalité qui ferait consensus, j'ai envie de dire, pour organiser justement le successeur à Bouteflika, pour qu'on ait vraiment réellement un président élu démocratiquement et que chacun ait le temps d'exposer son programme. Est-ce qu'il faut en arriver par là? Est-ce qu'il faut passer par là?
Alors oui, la personnalité qui ferait consensus, déjà, c'est déjà une grande chose. Ça voudrait dire qu'effectivement, elle est déjà acceptée par la société civile, parce qu'aujourd'hui, la société civile algérienne n'existe pas en termes politiques. Elle est en train de se constituer. Alors moi, j'allais dire que depuis quelques mois maintenant, 3-4 mois, on assiste à une conscientisation massive et accélérée de la vie politique en Algérie de la part du peuple. Et c'est rassurant, dans une certaine mesure, parce que on se dit qu'ils ont enfin pris la balle au bon, et surtout, il y a quand même 4 ou 5 ministres maintenant en prison ou recherchés pour des faits de détournement de fonds ou de corruption. Et ça, c'est rassurant dans la mesure où, effectivement, c'est un pays qui commence à avoir une maturation politique qu'on n'a jamais connue avant, et qui va donner un exemple au reste de l'Afrique. J'espère que ça va vraiment contaminer le reste de l'Afrique, comme le Soudan actuellement, pour faire en sorte que ces pays reprennent enfin leur destin en main et soient libérés de ces oligarques qui se sont mis plein les poches. Donc effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Et moi, je suis rassuré. Je sais pas ce que t'en penses, mais...
Oui, je pense que c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est voir aussi que ces organisations se sont mis d'accord aussi sur des choses importantes. C'est déjà la durée de cette transition. Mmh. On parle de 6 mois à 1 an. Il y a aussi le pilotage de cette transition.
Attention, donc, par qui?
Justement,
par qui ça va être géré?
Commission indépendante dirigée par cette organisation. Mais vraiment, il faut cette commission indépendante. Pourquoi? Parce que sinon, on dira toujours que c'est l'ancien système. Mais bon, je pense que là, c'est une bonne chose. Il y a aussi le but de la transition, c'est aller vers... Alors, le terme qui a été retenu, c'est cette nouvelle république. C'est le nouveau monde algérien qui va se mettre en marche, sans doute. Il y a l'adoption aussi d'une feuille de route. Donc, pour moi, on peut penser que ça peut être une sortie par rapport à cette impasse, quand même. Depuis des mois, on attend quand même l'organisation des élections qui n'auront pas lieu. Et je pense qu'en termes de transition positive et... c'est sûr que si à la fin il n'y a pas d'élection, il n'y a pas du concret, on va dire que tout ça, ça a servi à rien une fois de plus, mais je pense que ça permet de sortir quand même de cette impasse qui fatigue quand même le peuple algérien, qui nécessite, qui a besoin vraiment de cette transition démocratique.
Non, mais pour corriger, parce que je suis en connexion avec pas mal de monde là-bas, non seulement ils sont pas fatigués, mais ils n'ont jamais été aussi en forme. Même pendant le ramadan, ils s'étaient mobilisés tout le temps.
Alors que beaucoup avaient prévu justement l'essoufflement.
Et surtout, Oul Qadour qui se retrouve, c'est extraordinaire. Moi, j'ai toujours considéré que c'est l'incompétent, le responsable de la Sonatrach, qui se retrouve en prison, mis en examen. Le Premier ministre, l'ancien Yahya, en prison. Le précédent ancien Premier ministre, Sellal, en prison. On a une succession d'oligarques et de dirigeants politiques.
Halach est devenu le QG maintenant.
Maintenant, c'est devenu quasiment, on l'appelle le Club des Pins, tellement ça. Le Club des Pins, pour situer, c'était la zone UP d'Alger, à laquelle aucun membre de la population algéroise ne pouvait accéder, parce que c'était des trucs de bourgeois entre eux. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Donc, ce qui se passe, c'est que les changements sont tellement extraordinaires, tellement incroyables, sans violence, je veux le souligner.
Sans une goutte de sang, c'est vrai.
Mais c'est vraiment, je reviens pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont tellement bougé les lignes que quoi qu'il arrive aujourd'hui, quel que soit le processus électoral qui va être mis en place, de toute façon, l'Algérie moderne est en train de naître aujourd'hui. L'Algérie nouvelle.
Oui, l'Algérie nouvelle, l'Algérie moderne. Mais alors, juste un mot, messieurs, sur cette opération main propre, sur ces nombreuses mises en dépôt. Pour l'instant, ils ne sont pas encore jugés pour beaucoup d'entre eux. Mmh. Ils sont placés en mandat de dépôt. C'est quoi cette stratégie? Comment vous la qualifiez? La stratégie de Gaid Salah qui aujourd'hui de vouloir justement mettre un petit peu de tous ceux qui ont finalement trempé dans les magouilles et compagnie se retrouvent aujourd'hui à Halach ou dans les différentes prisons des différentes oulayas.
C'est pour légitimer, je pense, que sa place, parce que c'est sûr que là, vu le niveau d'exigence aussi aujourd'hui du peuple algérien, s'il se passe rien de concret, on voit vraiment que le peuple a demandé un changement total de régime, changement de système.
Il a demandé le départ des 3B, il en reste quand même quelques-uns.
Voilà, donc ils le feront peut-être au fur et à mesure, mais il avait pas le choix en même temps. À un moment donné, on peut pas dire statu quo, on laisse circuler les gens, et en Algérie, c'est pas nation Bastille, les gens ils tournent pas en rond. Il se passe des choses concrètes par rapport à leur mobilisation et leur implication. Donc, ils n'avaient pas le choix. Il faut aller encore dans ce sens pour préparer aussi cette transition.
Ce que je note, ce qui est très extraordinaire, les gens, c'est vrai que c'est marrant, on se pose pas la question, on se rend pas compte. C'est un pays qui était en état d'urgence. Les manifestations à plus de 5 personnes étaient interdites. C'est ça, l'Algérie, jusqu'au 22 février. Et là, c'est l'explosion littérale et en plus dans des meilleures conditions possibles. Mais il faut vraiment se rendre compte, il n'y a aucun pays au monde, je te maintiens, en dehors du fait qu'il y a un Algérien sur deux dans la rue, quasiment tous les jours, aucun pays au monde n'a obtenu en si peu de temps autant de résultats. Je veux dire, j'ai jamais vu ça. Que toute une caste politique, médiatique, financière se retrouve derrière les barreaux, mis en examen ou poursuivi, qu'on demande des comptes. Il y a des juges en train de statuer pour savoir s'ils peuvent récupérer. Écoutez bien le chiffre, il est extraordinaire. 350 milliards de dollars qui ont été détournés. 350 milliards de dollars qui dormiraient dans les banques suisses, une fois encore. Et bien ça, c'est un phénomène qui, quoi qu'il arrive aujourd'hui, n'a jamais été observé et va être une sorte de prise de conscience massive de la population, non seulement algérienne, mais mondiale. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un peuple est capable de redresser la situation et de mettre ses dirigeants à l'amende. J'utilise une expression populaire.
Ouais.
De dire, il va falloir marcher droit, messieurs, parce que c'est fini la rigolade. Mmh. Et pour un pays comme l'Algérie, qui a un potentiel d'enrichissement extraordinaire, on voit bien qu'il y avait des blocages. Et je fais référence à un copain à moi, un journaliste, qui m'expliquait l'état d'esprit général avant le 22 février. Les Algériens étaient littéralement considérés comme un peuple de dépressifs. C'était un peuple qui était complètement anéanti, qui ne croyait en rien, qui ne croyait pas en l'avenir, et qui ne pensait, comme on dit en arabe, harak, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir, brûler la frontière. Et bien aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils se réapproprient leur territoire, ils se réapproprient leur dignité, et ils veulent croire en l'avenir. Et ça, c'est impressionnant, ça, rien que pour ça.
Après moi, c'est vrai que j'ai un petit hic. C'est vrai que on peut se poser aussi qui nommera justement les membres de cette commission. Est-ce que l'armée ne s'immiscera pas? Parce que on a vu tout ce qui a été plus ou moins mis en œuvre pour préparer la transition et les élections. On peut dire qu'aujourd'hui que ça a complètement avorté. Donc il y a quand même cette crainte. Et même si, pour aller là dans le sens de Karl, même si cette commission, en tout cas, qui devrait se munir de plusieurs membres de la société civile, ne fonctionnerait pas, il y a quand même de l'espoir parce qu'on sent que ça va toujours vers l'avant, vers le positif. Il y a toujours cette recherche de quelque chose qui permettrait cette transition démocratique. Et compte tenu de la situation dans laquelle vivait justement ce pays, économique et politique, c'est normal que cette transition ne se fasse pas d'un claquement de doigts et que cela nécessite un processus avec, on va dire même dans une démarche même empirique, quoi. On ne sait pas où on va, mais on va vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose qui tend vers une réelle démocratie pour le peuple algérien.
Et puis c'est rassurant qu'ils prennent le temps. Aussi. Parce qu'il faut un temps de processus
mais
de changement.
Mais c'est bien de savoir où on va quand même, même si on peut prendre le temps.
Oui, savoir où on va, bien sûr.
Il faut savoir où on va à la fin parce que ça rassure, mais c'est un petit peu soit on voit le verre avec l'aspect à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je préfère le voir à moitié plein parce que c'est mieux que ce qu'il y avait avant, parce que les gens ont défait quand même quelque chose. Il ne faut pas oublier que c'est parce que les Algériens se sont mobilisés, se sont manifestés, que Bouteflika a décidé de ne pas riguer un deuxième mandat. C'est ça la vérité. C'est la mobilisation du peuple. Et comme on l'a dit, de manière pacifique, zéro goutte de sang, et c'est très bien. Et on continue.
Quelles conséquences sur la région ?
Ah, déjà, il y a plusieurs pays qui sont très inquiets. Bon, la Tunisie, pour des raisons historiques, puisque c'était le premier pays qui a manifesté sa volonté d'être démocratique.
C'est l'Algérie.
Non, je parle de. Je parle pas de 88.
Oui, je parle pas de 88.
Je parle de 2011, depuis 2011. 88, évidemment, ils ont précédé tout le monde, évidemment. Oui. Mais depuis 2011, c'était la Tunisie. Ensuite, après l'ouverture de ce champ démocratique, il y a eu des problématiques qui sont posées, la question de l'islam politique, la question de la dérive économique, des difficultés réelles que la Tunisie a rencontrées et qu'elle cachait. Ensuite, il y a le Maroc, parce qu'effectivement, il faut jamais perdre de vue que le Hirak algérien n'est que finalement une sorte d'enfant du Hirak marocain, et le Maroc a toujours été une sorte de modèle algérien. Je parle de la région du Rif, parce que la révolution algérienne s'est basée sur la révolution rifaine d'Abdelkrim Khatabi. Et aujourd'hui, les Marocains du Rif voient ce qui se passe en Algérie. Ils ont fait la même chose, mais eux n'ont pas eu le même succès parce qu'ils ont été réprimés pour des raisons faussement ethniques. Et aujourd'hui, les questions se poseront au Maroc si jamais l'Algérie remporte la mise. Si le peuple algérien prend le pouvoir comme il le demande, il va forcément y avoir une contagion sur la question marocaine, qui est, je le rappelle tout de même, un pays extrêmement pauvre, quoi qu'on en dise. C'est un pays qui a quand même un seuil de pauvreté très élevé, avec 50% d'analphabètes, donc un pays qui a aussi des revendications sociales et de dignité qui vont s'exercer. Et si il y a une contagion entre le Rif et le reste du Maroc, il y a fort à parier que le roi fera beaucoup d'efforts pour se faire aimer à nouveau par son peuple.
Bon, et ben ça nous donne encore de beaux débats en perspective dans cette émission. Dans un instant, un petit quiz pour vous départager. J'ai un petit trophée à vous remettre. C'est Dionor Excellent, Gamal Abina. J'ai des petites questions sur ce qui s'est passé. On est un 17 juin, messieurs. Hein, vous révisez, à tout de suite.
France Maghreb 2.
Ah, j'aime beaucoup et particulièrement ce moment de l'émission sur France Maghreb 2, après avoir évoqué beaucoup de sujets ô combien très sérieux, hein, vous le reconnaissez comme moi, dans cette émission. Terminée, j'ai envie de dire, pour se détendre un petit peu, mettre en compétition nos chroniqueurs, que sont Gamal Abina et Dionor Excellent. Aujourd'hui, je crois que Dionor, c'est ton premier quiz, hein.
Non, c'est mon troisième quiz. Et on sent la chaleur qui monte.
Ouais, c'est ça, exactement. Eh, hey, Gamal, attention, il est fort. Hein.
Ah, il est très fort, Gamal. Hein,
ça dépend des jours. Hein,
je tape vite sur le champignon. Mouché,
hein. Bon, allez, c'est parti, messieurs. On y va. Gamal Abina à ma gauche. Poids plume. À ma droite. Dionor, excellent. Poids moyen. Tous les deux se regardent, fixant leur regard en disant je vais te détruire. Première question, messieurs. Attention, tout ce que je pose comme question s'est passé évidemment un 17 juin. C'est en 17 juin, justement, que la Statue de la Liberté arrive par bateau à New York. En quelle année, messieurs ?
1897, si je ne me trompe pas ?
Non.
Ah, je me trompe. C'est la fin du... Ah non, c'est du siècle, j'ai une bêtise.
Non, mais c'est pas loin, mais c'est pas ça.
85,
monsieur Delors, excellent. 1885. Bonne réponse. Il est là, il est tranquille, regarde. Ah, c'est ça la méthode Delors. C'est je suis tranquille, je suis paisible, j'attends mon adversaire. J'attends qu'il se plante et bam. Allez, le stud, il est là. Ouais. 1885,
effectivement. Tu m'as un peu aidé, tu sais, c'était un peu pour
bah oui. Donc la Statue de la Liberté est arrivée à New York. J'ai eu l'occasion de la voir, la visiter. Fabuleux. Deuxième question. Attention. 17 juin, là aussi, création d'une radio du service public en 1997. De quelle radio s'agit-il ?
97 ?
Ouais. Création d'une radio du service public français. Non, c'est pas RFI.
France Culture ?
Pas RFI, France Culture.
Alors, c'est pas France Inter, c'est sûr.
Non,
c'est pas...
je vous donne un indice. Une radio qui s'adresse particulièrement à un public jeune.
Ah, Move.
Le Move. Bonne réponse, le Move. Créé donc en 97. Et le Move qui marche plutôt bien d'ailleurs en ce moment. Un point partout. Attention, égalité. Je cherche à présent une chanteuse, auteur, compositeur et interprète québécoise mais aussi française.
Céline Dion.
Non. Née le 17 juin 1952. De qui s'agit-il?
Auteur, compositeur, interprète.
Oui, québécoise et française.
Franco-québécoise. C'est Fabienne Thibault.
Fabienne Thibault, ah. Bonne réponse, mon gamin.
Super.
2-1.
J'aurais pas trouvé.
Je cherche à présent une chanteuse, toujours, mais aussi actrice portugaise. Francophone, né le 17 juin 62.
C'est mort.
62 ?
Oui.
De Souza, mais ça m'étonnerait.
C'est pas De Souza.
Non,
elle est un peu plus vieille, hein, De Souza.
C'est quoi, c'est l'actrice ?
Actrice, chanteuse aussi, portugaise, francophone. Elle a eu beaucoup de succès à l'époque.
Actrice, chanteuse.
Ouais.
Actrice, chanteuse.
Ouais.
C'est passé qui a fait. Attends. C'est passé qui a
vas-y,
fait...
ça brûle.
Swan Massy, c'est pas lui.
Non, mais non.
Non, je parle qui a interprété au cinéma, à la télé. Mais non, c'est pas. Actrice chanteuse
portugaise, francophone, née le 17 juin 62.
Bon, on se fait un pendu là, alors.
Alors là.
Si je vous dis les prunes comptent pas pour des prunes.
Ah oui, Lio.
Les brunes. Lio. Bonne réponse. Les brunes comptent pas pour des prunes.
Sur De Souza.
Bah oui, mais non, fallait pas.
En 3... plus, c'est bien Lio qui a. Ah oui, effectivement.
3-1 pour Gamal Abina. Quatrième question. Dans quel pays d'Europe ont eu lieu les soulèvements d'ouvriers en 1953, un 17 juin ?
En 53 ?
Oui.
Je pense à 56, 53, c'est...
C'est un pays russe, non ?
Non. Quel pays d'Europe ?
D'Europe, ah oui.
Ont eu lieu les soulèvements d'ouvriers, en 53 ?
C'est en Allemagne ?
En Allemagne ! Ah. Bonne réponse, c'était dans la banlieue Berlin-Est.
Ouais. Ah oui, c'est vrai.
Mon cher Dionor, 3-2, attention ! Peut-être l'occasion à Gamal de s'envoler ou peut-être à Dionor d'égaliser. Tout va se jouer sur cette question, messieurs. Et c'est une question sport.
Oh.
Quel pays remporte la Coupe du Monde de football en 1962, un 17 juin ?
Le Brésil.
Ouais. Magnifique, mon Gamal, avec une victoire 4-2. Quel beau match. Ah oui, il y a la musique de la Ligue des Champions, mon cher.
Surtout que je suis nul en sport, mais à un niveau.
Et d'ailleurs, puisqu'on parle de foot, sachez qu'à la fin de la semaine démarre une compétition attendue par les adeptes de football. C'est la Coupe d'Afrique des Nations avec une victoire algérienne hier face au Mali, 3-2. Algérie, Maroc, Tunisie, on va suivre ça de très près. Il y a aussi la Mauritanie qui fait sa première apparition dans la CAN. Et puis ce soir, on n'en oublie pas les Françaises en Coupe du Monde de football féminine face au Nigeria. On leur souhaite évidemment bonne chance.
France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.